Quelle est la bonne posture sur notre vélo? Où mettre nos mains? Comment régler notre selle? Comment régler notre guidon? Comment savoir si nous sommes dans la bonne position, justement? Si vous posez vous aussi toutes ces questions et bien d'autres, et bien mon invité du jour va nous donner de nombreuses pistes à explorer. Allez, c'est parti! Bonjour, bonjour, c'est Bertrand. J'espère que vous avez la forme, la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous. Bienvenue dans Kilomètre 350. Comment débuter le cyclisme à 46 ans? Comment passer de 0 km par an à 350 km dans un week-end? Telle est l'aventure que je vais vous raconter d'épisode en épisode dans ce podcast. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Bertrand Soulier. Il y a quelques années, je ne faisais pas de sport du tout. J'ai fait un rééquilibrage alimentaire, repris le sport, débuté la course et j'ai perdu 27 kilos pour devenir marathonien. Maintenant, je cours tous les jours. Mais le vélo, je dois bien le dire, à l'origine, ce n'est pas vraiment mon sport, mais ça va le devenir. Et je vais devenir champion du monde de mon monde en finissant mon premier gravelman. Et c'est ce que je vais vous raconter dans les différents épisodes de ce podcast. Et je dois le dire, depuis que je roule, je me suis posé pas mal de questions sur la meilleure position sur mon vélo. Est-ce que je dois avoir la jambe tendue? Est-ce que ma selle est assez haute? Pourquoi je ne suis pas à l'aise quand je veux descendre les mains sur le cintre, notamment dans les descentes, et alors que je serais bien plus à l'aise si je pouvais mieux appuyer sur les freins? Quelle est la meilleure position pour rouler longtemps ou pour aller plus vite sans me fatiguer? Et je ne suis pas le seul à me poser ces questions, car vous m'aviez aussi, vous envoyé des questions de ce type. Alors j'ai demandé à Adeline, que j'avais reçue dans un précédent épisode, si elle pouvait me diriger vers un spécialiste. Elle m'a recommandé son compère d'aventure, Thomas. Lui aussi est kiné, il est formé aux études posturales et intervient avec les jeunes de l'équipe de France de cyclisme. Il réalise des études posturales dont nous avons un petit peu parlé, mais surtout nous avons parlé de tous ces éléments qui font qu'on a la bonne posture, à commencer par définir à quoi ça sert d'avoir la bonne posture et qu'est-ce que ça change dans notre pratique. Bah oui, finalement, comment on sait qu'on a la bonne posture? Et vous allez comprendre qu'il y a pas mal d'éléments qui jouent et que ça tourne autour de la triade malheureuse, pied, selle, guidon. Voilà, on a beaucoup parlé de ces trois éléments-là, même en prenant des mesures. Oui, il y a des mesures, par exemple, de vos fesses à prendre, je vous le dis directement. Et vous allez découvrir pourquoi. Thomas donne beaucoup, beaucoup d'éléments sur le réglage, de choix de matériel aussi, comme pour la selle, justement, d'ajustement possible ou pas, hein, ça dépend un petit peu des vélos. Mais aussi les conséquences de mauvais réglage. Bah oui, ça, c'est son œil de kiné. Douleur au genou, mal de fesses, douleur dans le dos, les mains, voilà, tout un tas de choses comme ça qu'on a abordé. Et puis un sujet que je ne pensais pas aborder, mais oui, on a aussi parlé des envies de faire pipi qui peuvent être trop fréquente, et bien ça veut dire que vous êtes mal positionné sur votre vélo. Oui, et vous allez découvrir pourquoi. Mais avant d'attaquer ce sujet, je vous propose mon habituel fil rouge pour vous dire où j'en suis de mon entraînement. Alors la semaine dernière, j'ai fait 74 km, c'est un petit peu mieux que les 61 km de la semaine d'avant, mais loin des 120 et 140 km des semaines précédentes. 3h44 de selle contre 3h36 la semaine d'avant. Là encore, hein, c'est bien inférieur aux 7h d'il y a un mois et loin des 6h que j'aimerais faire. 845 mètres de dénivelé contre 1057 la semaine d'avant, ce qui vient là d'un choix de parcours. Oui, je dois le dire, hein, j'ai voulu rouler un petit peu sur le plat par moment. La semaine précédente, j'avais moins roulé à cause de 3 jours sur Paris, mais la semaine dernière, c'est le vent qui m'a contrarié. C'est vraiment le vent qui a contrarié mes plans, notamment le vendredi, parce que ça soufflait plein pot, c'était vraiment, même en courant, c'était pas du tout agréable. Donc je n'ai pas sorti le vélo, d'ailleurs il y a des arbres qui sont tombés pas très loin de la maison. Et donc voilà, je suis resté, on va dire, dans mes baskets pour courir, mais je n'ai pas pu sortir le vélo, donc ça m'a enlevé une bonne sortie. J'avais prévu quand même une sortie de 2 heures ce jour-là, donc ça m'a enlevé un bon volume en temps et un bon volume de sel, voilà, tout simplement. Le vent, c'est pas vraiment calmé, enfin un petit peu, mais c'est pas terrible depuis, hein. Il y a toujours un petit peu de vent, mais cette semaine je roule, hein, je dois vous le dire, vous verrez ça la semaine prochaine quand je ferai le bilan. Mais globalement en fait, le problème c'est que je n'ai pu faire que 3 sorties la semaine dernière, entre 1h et 1h30, et celle donc prévue le vendredi était impossible parce que ça soufflait trop fort. Donc finalement je suis un petit peu frustré, parce que moi j'avais prévu d'augmenter le volume, d'arriver justement à faire, dans pas très longtemps, de me rassurer en atteignant une sortie de 100 km. Et là, je me retrouve dans des sorties, finalement, où je fais 30, 40 km, des choses comme ça. Enfin, même la semaine dernière, 1h, 1h30, c'est pas des grosses sorties. Donc, j'ai l'impression de prendre un petit peu du retard. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. J'espère vraiment que le temps va s'améliorer, hein. Maintenant qu'on est au mois d'avril, quand même, j'espère que ça va s'améliorer. D'autant que j'ai maintenant une date officielle de la première échéance. La première échéance, oui, car la semaine dernière, je me suis officiellement inscrit sur le Gravelman Auvergne en trace gravel, 120 km. Voilà, c'est fait, c'est marqué, c'est inscrit, j'ai payé mon inscription, j'ai reçu le mail de confirmation. Désormais, j'attends la suite des événements, donc il me laisse à peu près 5-6 semaines pour me préparer. Je projette aussi de faire le Gravelman Paris Deauville, hein, début septembre, et là, ça sera sur la trace gravel 350 km. Mais là, je suis pas inscrit. J'attends en fait. Je sais pas d'ailleurs si je devrais pas m'inscrire. Ça serait peut-être une bonne idée de m'inscrire dès maintenant. Quoi qu'il arrive sur le Gravelman Auvergne pour me dire, bah tiens, je m'inscris dès maintenant. Pourquoi pas? Mais c'est pas le cas encore. Mais peut-être que je vais le faire dans les heures qui viennent. Allez savoir. Donc maintenant, je prépare les détails techniques. Je dois m'entraîner un peu plus. Vraiment, hein, je dois arriver à comment allonger les distances, comment allonger aussi le temps de selle d'affilée. J'ai envie de dire vraiment de dire, je peux faire des sorties 4-5 heures. Un peu les stratégies dont on avait discuté avec certains invités, de dire bah tiens, je peux aller rouler 50-60 km le samedi, 50-60 km le dimanche, ou le vendredi, samedi, enfin voilà, faire ma petite sauce à moi pour arriver à allonger petit à petit les distances et puis atteindre cette fameuse sur Strava. Vous savez, je me suis inscrit sur les challenges Grand Fondo, donc là c'est 100 km d'un coup, qui me rassurerait bien, je dois le dire, une sortie de 100 km me rassurerait bien avant d'attaquer le 120. Et puis, je dois vous le dire, j'ai décidé d'installer mes pédales automatiques. Elles sont pas installées parce que le jour où je voulais les installer, bah justement avec le vent, j'ai dit, bon, tu vois, c'est pas la peine de les installer aujourd'hui parce que je peux pas les essayer. Donc, j'ai repoussé un petit peu. Mais pourquoi je l'ai fait? Parce que suite à l'enregistrement, on a discuté un petit peu de tout ça. On a discuté notamment du réglage des pédales et du réglage des cales des chaussures dans l'épisode. Et je me suis dit, bah, quand même, c'est le moment, hein, je vais monter mes pédales et puis je vais aller voir justement à quoi correspondent ces réglages de cales. Et là, vous allez comprendre dans la suite de l'épisode. C'est un épisode qui est vraiment très riche, vraiment très riche. Je remercie vraiment Thomas pour toutes ses réponses. Comme je disais, j'ai pris beaucoup de notes. Il y a plein d'éléments qui sont vraiment très intéressants pour justement aborder quelle est la bonne posture, la bonne position sur son vélo et qu'est-ce que ça change. Voilà, je vous laisse maintenant écouter cet épisode. C'est parti.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Bonsoir Thomas.
Bonsoir à toi.
Comment vas-tu?
Bah écoute, ça va très bien, content d'être là.
Eh ben écoute, moi aussi je suis très content de t'avoir parce que alors j'ai une liste de questions mais qui est longue, plus longue que mes bras. La semaine dernière j'ai montré à Adeline la longueur de mes bras et tout et je lui ai posé la question, je lui ai dit écoute Adeline, j'ai un problème, j'ai des questions auxquelles je ne peux pas répondre, qui sont sur moi-même, ma posture sur le vélo. Et j'en ai eu d'autres questions, et c'est marrant parce que j'ai une question en plus qui est arrivée par Instagram, mais quasiment en même temps. Et j'ai dit, oui, il faut que je pose ces questions-là. Il me faut quelqu'un. Et Adeline, elle m'a dit, oh, mais Thomas, il va avoir les réponses, il va t'aider, etc. Parce qu'en fait, il s'y connaît bien dans ce domaine-là. Alors, je vais te laisser te présenter. Comme ça, on comprendra pourquoi tu connais bien le domaine.
Eh ben, écoute, je m'appelle Thomas Pied-Noir. Je suis diplômé en kiné depuis 2015, kiné du sport depuis 2017. Et je travaille pour la Fédé de cyclisme avec les juniors depuis 2018. Donc j'ai fait quelques missions de manière occasionnelle, puis le Covid est arrivé et au retour du Covid, j'ai commencé à vraiment accélérer et intervenir à peu près 45 jours par an. Et j'ai dû intervenir sur des postures avec des juniors qui ont 18 ans, qui ont déjà quand même un bon vécu au vélo, mais qui posaient plein de questions. Et moi, je me suis retrouvé un peu démuni. J'avais mon étiquette kiné, mais pas du tout l'étiquette mince, qu'est-ce que je dois faire et qu'est-ce que je peux améliorer comme confort auprès d'eux. Donc, j'ai commencé à lire. Je me suis intéressé en lisant des bouquins. Et puis, la Fédé de cyclisme nous a proposé de former en études posturales par l'intervention d'un organisme québécois, le Physio Vélo. Et en fait, je me suis formé. Et grâce à eux, j'ai appris pas mal de choses. Et ça a confirmé ce que je pensais être bon. Et ça m'a enlevé aussi des préjugés qui étaient faux, quoi.
Finalement, c'est quoi l'importance de la bonne posture sur un vélo?
Pour moi, c'est le confort. Pour moi, il n'y a pas d'autre mot, c'est d'être confortable. Alors après, c'est sûr que des coureurs élites professionnels peuvent subir et décider d'avoir plus de contraintes pour privilégier la performance. Mais pour moi, le vélo doit rester un plaisir. Quand je prends mon vélo, je ne dois pas me dire je vais subir et je vais rentrer genre mal au dos quoi, ou mal au pied. Pour moi, c'est le confort, profiter.
Alors d'ailleurs tiens, tu parles de mal de dos, c'est intéressant parce que ma précédente invitée me disait qu'elle avait eu mal au cervical après elle a fait le half, le gravelman en half, donc c'est-à-dire 120, bon, elle était allongée à 146 hein, et Stephen Leberry a fait une petite blague, elle m'a dit qu'en fait elle avait eu plus mal après d'avoir mal au dos cervical, d'ailleurs il y a plein de personnes qui me l'ont dit en fait, avec notamment le casque, avec la position et tout, moi je pensais qu'on avait mal aux jambes et aux fesses et en fait souvent on m'a parlé du dos en fait.
Ouais, je suis pas surpris. En fait, tu me lances un peu une perche, justement, sur notre formation de bike fitting. On nous parle un peu de la triade malheureuse. En fait, j'ai mal au périnée, j'ai mal sur ma selle, donc je vais pencher un peu ma selle vers l'avant et je vais avoir tendance à beaucoup appuyer et mettre beaucoup de contraintes sur mes bras. Et souvent, on se retrouve avec des gens très enroulés sur l'avant et qui vont hop, regarder le plus haut possible et avoir des grosses contraintes entre les omoplates. Et c'est souvent une zone qui devient douloureuse sur le long terme.
Puis en plus, il y a le poids du casque qui joue, parce qu'en plus, il y a des casques légers, des casques lourds, mais ça joue en plus, quoi.
Bien sûr, il y a le casque, il y a aussi, on a une sangle sous le menton qui peut être désagréable, et le casque aura peut-être tendance des fois à un petit peu descendre et va se retrouver au niveau des sourcils, puis les lunettes, et on va chercher à allonger le regard comme si on allait chercher loin et on voulait regarder le plus loin possible. Et on va se retrouver avec des petites douleurs à la nuque, au cervical, et puis les vibrations, mine de rien. Quand on fait du VTT, du gravel, il y a quand même un nombre de chocs. On ne se rend pas compte, on prend plaisir, on avance vite, les kilomètres déroulent, mais les vibrations sont bien présentes quand même.
Ouais, alors, je peux te dire qu'hier, sur le chemin tracteur et à champ de patates que j'ai pris, oui, les vibrations, je les ai senties. Hein. À 25
Ah
à l'heure,
ouais.
pour attraper le VTT qui était devant moi, je dis waouh, comme ça secoue, ça m'a secoué dans tous les sens. Mais j'imagine pas faire beaucoup. Hein. C'est vrai que il faut le dire. Hein.
Oui, ben Adeline a dû en parler sur un podcast précédent, mais en fait, le corps s'adapte et se désadapte. Des fois, on va être des coureurs récréationnels, que ce soit en vélo, en course à pied. Et en fait, le plus dur, c'est pas d'enchaîner des fois. C'est de courir une fois de temps en temps. Et on va prendre notre vélo et on va se dire, tiens, je vais mettre une petite carotte, je vais essayer d'aller plus vite ou tester cette nouvelle montée, cette descente. Et en fait, le corps, bah, il n'a pas encore eu le temps tout à fait s'adapter. Et c'est ça la difficulté des fois.
Ce qui est intéressant, moi, je trouve, dans ces histoires de posture, c'est que on a tout le monde se pose la question, tu vois, de savoir est-ce qu'il y a une position idéale?
Oui, si on y réfléchit un petit peu, je relisais le livre de Phil Burt sur le vélo, le réglage. C'était quelqu'un qui a commencé à étudier un peu toutes ses postures et il parlait de la fameuse formule 0885, il faut à la hauteur d'entrejambe, on a ma hauteur d'entrejambe et bam, je pars sur mon réglage. Je pense que cette formule, elle est intéressante pour régler de base un vélo. Après, faut l'affiner. C'est pas du tout le gold standard, c'est pas du tout la vraie valeur. Vous pouvez prendre cette valeur, la mettre. Et à partir de là, juger, tiens, je suis un petit peu peut-être trop bas, trop haut, et c'est à vous d'être curieux et de bien ressentir au niveau de votre corps, clairement.
Alors, tiens, tu vas l'expliquer parce que là, il y en a, ils sont en train de courir ou de rouler ou de je sais pas quoi faire. C'est quoi la règle alors? Il faut mesurer quoi? Ses jambes, faut mesurer quoi?
Alors, cette formule-là, il parle de la hauteur d'entrejambe. C'est venir au plus haut, là où vous avez la hauteur du cuissard. Si vous êtes en cuissard, dos contre un mur, vous allez faire, par exemple, un petit trait contre le mur. Je vais prendre ma hauteur et cette hauteur-là, je vais la mettre en centimètres et je vais la multiplier fois cette formule 0,885. À partir de là, j'aurai une hauteur, de selle.
D'accord.
Et cette hauteur de selle, moi, je propose de prendre ma selle et de prendre l'axe du tube et de tracer cette hauteur-là. À partir de là, je me répète, c'est pas la valeur sûre, mais on a déjà quelque chose qui se rapproche au plus juste de notre hauteur de selle, et après, il faudra l'affiner plus ou moins haut.
C'est drôle parce que j'ai des gens qui ont vu la photo de mon vélo. Ils m'ont dit, mais ta selle, elle est. Comment ils m'ont dit? Ils m'ont dit, elle est pas vers l'avant ou trop vers l'avant. Ou... Enfin, ça joue ces histoires-là quand même.
Et ouais, bien sûr. Donc là, on a parlé de la hauteur de selle, mais si on affine un petit peu le réglage, elle peut piquer du nez ou se redresser. Cette selle, elle a cette faculté-là. Maintenant, c'est ce que je reviens sur un peu la triade malheureuse. C'est souvent les gens, la selle est trop haute, donc ça écrase un petit peu le périnée. On a des engourdissements. Donc qu'est-ce qu'on fait? On décide pas de la baisser tout simplement parce qu'on parle de cette formule-là qui est peut-être un peu trop haute. Donc on va la pencher de vers l'avant. Et en la penchant vers l'avant, eh bien, on va avoir tendance à glisser sur notre selle et se retrouver projeté vers l'avant. Et on retombe sur la personne qui est avec le gravel précédemment et qui a cette douleur entre les omoplates au niveau cervical. Donc attention, elle doit pencher. Il y a une norme. On conseille souvent 0,0, moins 3 mm vers l'avant. Vous pouvez prendre votre téléphone, il a un petit niveau, vous le calez, vous mettez une planche droite sur la selle et vous regardez. Il faut qu'elle soit entre 0 et moins 3 degrés. Ça donne à peu près une norme. Après, moi, ce que je conseille surtout, c'est si vous avez la chance de rouler sur une traîneur, je dis la chance parce que c'est intéressant, vous avez les mains libres et vous roulez. Et si vous avez tendance à glisser sur votre selle vers l'avant, c'est qu'elle penche d'office trop vers l'avant. Et même si elle est à 0 degré, c'est qu'elle penche trop et vous glissez vers l'avant. En glissant trop vers l'avant, vous allez tout de suite appuyer avec les bras.
Ah, c'est intéressant d'avoir ces astuces-là parce que c'est vrai que puis enfin moi tu vois et je suis allé dans un magasin quand j'ai acheté le vélo hein, et il m'a mis le vélo devant à peu près devant moi il me dit oh la selle ça va être bon et je t'avoue j'ai jamais touché depuis j'ai pas retouché je me sens pas mal mais j'ai pas retouché.
Eh bien, si je refais mon parallèle avec le livre dont je parlais tout à l'heure, il parle de micro-ajusteurs et de macro-ajusteurs. Il y a des gens qui vont être capables d'absorber des grosses contraintes, et il y en a d'autres, bah, le moindre changement, et il va tout de suite le sentir. Si je prends de nouveau l'exemple d'Adeline, je pense qu'Adeline est une micro-ajustrice. Le moindre changement, elle arrive à plutôt bien le percevoir. Moi, je suis pas trop discriminant, donc je me rends pas trop compte. Je roule, je pense, depuis longtemps avec une selle trop étroite et trop haute. Et en fait, un jour, je me suis rendu compte, en faisant justement ma formation, que ma selle était beaucoup trop haute. Je l'ai descendue et j'ai repris un peu les codes de ma formation et j'ai dit, ah ouais, en fait, vraiment plus confortable sur ce vélo. Voilà. Même moi, j'en ai fait les frais, quoi.
Mais c'est drôle parce que moi, dans ma tête, la hauteur de selle, il fallait la régler surtout par rapport à avoir une histoire de jambe. Est-ce qu'il faut avoir la jambe tendue ou pas? Mais j'ai lu plein d'histoires sur cette histoire-là. Est-ce qu'il faut avoir la jambe tendue quand ça arrive tout en bas du pédalage ou pas, en fait?
Non, il faut pas avoir la jambe tendue. C'est une erreur de se dire. Il doit nous rester un angle de réserve qui est estimé à peu près à 35 degrés. En fait, non. Si on pédale jambe tendue, on va mettre trop en tension notre système neuro et on va étirer nos ischio-jambiers, on va étirer le dos et on va être douloureux sur la longue distance.
Ouais, c'est drôle parce que quand j'étais gamin, j'ai l'impression que je monte la selle le plus haut possible sur mon VTT. Je la montais, je la montais, je la montais, je la montais.
Et tu sais pourquoi?
Vas-y.
Tout de suite. Tu as vu le Tour de France, on voit ces coureurs avec des hautes selles. Si on prend le film Le Vélo de Guylain avec Guylain Lambert qui veut rebattre le record du monde, il a une selle si haute, tu te dis mais comment il fait? Et en fait, on est impressionné par ça. Je pense qu'on est on s'imprègne de ce qu'on voit à la télé et du Tour de France. Et ces coureurs-là ont un drop. Donc un drop, c'est la différence entre la selle et le guidon qui est tellement énorme. Et on se dit mais moi, je veux ressembler à ça en fait. Le coureur pro, il roule comme ça, je veux faire pareil. Il s'est entraîné pour.
Ouais, et d'ailleurs, alors moi, alors on peut y venir tout de suite, mais c'est vrai que c'est un truc. Il y a une question de position des mains entre les cocottes, etc. Et alors moi, j'ai un truc qui est super compliqué chez moi, c'est que j'ai beaucoup de mal à aller mettre les mains sur le cintre, là où c'est les courbures, quoi.
Ouais, tout à fait. Alors le cintre, les courbures, le drop. On va prendre si le vélo, j'ai le drop, c'est là où j'ai l'arrondi. Et j'ai le cintre où je vais avoir mes mains si je suis pilote redressé et il y a les cocottes sur le côté. Si on part de ces trois points-là, normalement, quand tu es confortable sur ton vélo, tu dois pouvoir atteindre ces trois points-là facilement. Il y a d'ailleurs une petite astuce, j'en profite vu que je suis dessus, je n'ai pas envie de l'oublier, pour aller chercher les poignées de frein chez la marque Shimano, pour ne pas les citer. On peut visser la molette et rapprocher justement les leviers de frein pour les gens qui ont des petites mains. Ça, c'est un petit tip qui est pas mal à savoir. Maintenant, pour savoir où est-ce que je dois positionner mes mains, on a donc réglé la selle là tout de suite, mais il y a aussi réglé un petit peu l'angle d'épaule. L'angle d'épaule doit être assez harmonieux, on doit avoir une courbure de colonne plutôt rectiligne et on doit retrouver un angle autour des 90 degrés. C'est ce qu'on nous conseille nous lors de notre formation. Lorsque tu as cet angle-là, tu viens poser tes mains et normalement, tu es censé être capable de te balader un petit peu partout. Et c'est comme ça que tu choisis ta longueur de potence en fait.
D'accord, parce que tu vois, voilà. Moi, c'est vrai que quand je suis confortable, mais tout à l'heure, j'ai fait l'expérience, parce que j'ai roulé 30 bornes aujourd'hui, donc j'ai fait l'expérience. En fait, je me suis rendu compte qu'il y a un endroit où mes mains, je suis vraiment à l'aise, tu vois, mais avec les bras qui ne sont pas tendus, un peu avec un petit angle, etc. Oui. Donc là, je suis vraiment à l'aise. Et puis après, il y a des moments où en fait, je me dis, attends, pour attraper mon frein, il faut que je me penche un poil plus et je suis un peu moins à l'aise. Et alors... je me dis, si je devais vraiment freiner fort et que je mets les mains en bas et parce que c'est là où ça me semble être l'endroit où j'ai le plus de puissance pour appuyer sur mes freins et notamment en descente, et je me dis mais là je suis pas super à l'aise, tu vois, ça plonge un peu en plus, alors dans une descente c'est encore pire, donc je me dis j'ai un problème.
Oui, peut-être que tu as un problème de réglage par rapport à la hauteur de ton frein, donc on appelle ça des spacers. Donc j'ai ma potence, ensuite j'ai mon centre qui est coudé. Et j'ai des spacers en dessous. Ces spacers, on peut en mettre plus ou moins une certaine quantité. Et ils dépassent souvent au-dessus. Là, tu vois, j'ai les yeux sur mon gravel qui est devant moi. Et ben, j'ai plus ou moins de spacers. Et là, moi aussi, je penche trop vers l'avant. J'ai du mal à aller chercher un peu sur mes freins. Maintenant que je suis un peu plus, j'avais laissé un peu mon gravel de côté. Maintenant que j'ai fini la formation et je reroule dessus, je me dis, non, il faut que je le change. Les cordonniers sont plus mal chaussés. Mais, peut-être qu'il faut que tu remontes la hauteur de ton cintre pour être plus confortable et à chercher tes poignées de frein.
Parce que tu me confirmes quand même qu'en descente, là où il faut le plus, là où on a plus besoin d'avoir des freinages, il vaut mieux être avoir les mains plus
tout
en
à
bas.
Fait.
Quoi.
Oui, tout à fait. Ça, je te le confirme. Tu as totalement raison. Pour pouvoir virer plus facilement, c'est sûr que si j'ai mes mains au-dessus, je vais avoir du mal à virer. On le voit bien, justement. On peut faire cette anecdote. Je reprends un petit peu mon image par rapport au coureur du Tour de France. Amusez-vous à les regarder. Vous verrez des coureurs vraiment les mains dans les drops, qui prennent les virages et qui engagent et qui tournent les épaules. C'est un peu comme aussi, petite astuce aussi, tournez bien, engagez bien votre tronc. Et quand vous engagez un tournant, justement, appuyez bien sur votre pédale qui est à l'intérieur, justement, du virage. C'est elle qui va vous aider à tourner, qui vous aidera à mieux tourner avec les mains dans les drops. Et comment? Si vous regardez autour de France, vous verrez des coureurs qui ont un peu peur, qui sont sur les cocottes. On dit, ah, il a les mains sur les cocottes, il est un peu frileux. Ben ouais, en fait, peut-être que ça engage un peu trop, ça descend trop vite et on aura les mains là-haut. Et on virera moins bien et on descendra moins vite.
Mais en plus, quand il faut freiner fort et tout dans les descentes, c'est pas, on freine pas bien. Ou alors, il faut avoir vraiment des grandes mains ou je sais pas quoi pour atteindre la poignée, quoi.
En effet, donc c'est pour ça, il faut que les mains dans les drops soient bien, bien confortables. Après, tu me fais penser à quelque chose que je n'avais pas pensé. Par exemple, ma cousine a commencé le vélo et elle avait un petit peu peur. Elle avait un vélo de route. Et ben pour elle, elle a rajouté des freins tout simplement sur le cintre. Voilà. Elle a rajouté des cintres, elle les a fait monter. Et le temps qu'elle n'était pas à l'aise en descente, elle descendait avec ça. Elle avait des freins comme un VTT et elle se sentait complètement rassurée. Vaut mieux ça et être rassurée que partir à la faute et tomber, quoi, clairement.
Mais tu sais que j'ai doublé quelqu'un l'autre jour qui avait un vélo qui ressemblait à un gravel au niveau des roues, de plein de choses, mais avec avec un guidon plat, comme sur un VTT.
Ouais. Mmh. Ouais, ça se fait beaucoup, avec un cintre plat. Certainement qu'il n'est pas confortable d'aller chercher dans les drops, il ne tolère peut-être pas la position un peu engagée, et justement, il préfère un cintre plat. Complètement, ça se voit de plus en plus. On se retrouve beaucoup, le vélo est en pleine expansion avec des vélos un peu tipi, mi-gravel, mi-fixi, avec des cintres plats où les gens ont plus de maniabilité sur un cintre plat. Tout dépend de l'usage qu'on va en faire.
Parce que, et c'est un truc, et Adeline, c'est rigolo, elle m'a dit, ouais, manier un gravel, c'est pas si évident que ça par rapport à un VTT, où en plus les VTT c'est plus large, etc. Le gravel, plus serré et tout. Et c'est vrai que c'est pas en pilotage, si en plus on y met un peu de vitesse et tout dans les descentes, etc., ou même quand ça rebondit un peu dans tous les sens, c'est pas si évident que ça, ça paraît simple. Mais en fait, tant qu'on ne sait pas coltiner, non.
Non, 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 complètement. Un gravel n'est pas si simple que ça à piloter. Parce que déjà, il n'y a pas les amortisseurs. Donc, si on décide d'engager un peu dans un chemin, c'est l'utilité première, hein, dans un chemin, il faudra faire attention parce qu'on on a peu de pression, mais on peut vite pincer le pneu, ou on peut vite se faire surprendre et réagir. La réaction du sol va vite nous entraîner. Un VTT est plus soft, il a un pneu plus large, il a un amortisseur plus important, donc il va absorber beaucoup plus de choses que nous, nous ne devrons pas absorber. Forcément, on verra plus quelqu'un sur un gravel avec les jambes semi-fléchies, pas forcément appuyées sur la selle, et piloter plus facilement. Voilà. Après, bon, allez, je donne cette petite anecdote. Moi, je suis un peu trouillard en descente. Le VTT, un guidon large, j'ai du mal à virer en descendant que sur un gravel avec un cockpit plus resserré, je me sens, confortable. Je trouve qu'il me suit. Voilà. C'est après libre à chacun en fonction de ses goûts et ses préférences. Mais en effet, la majorité des gens préféreront rouler sur un VTT.
Ouais, mais en plus il y a un truc qui joue. Alors je sais pas où on en est sur les VTT, mais à une époque il y a eu la grosse mode des 29 pouces là, sur les VTT avec des grosses roues, etc. Alors grand guidon, grosse roue et tout. Alors que sur un gravel, on est quand même sur des roues plus petites. Donc sur la maniabilité, sur l'inertie et tout, c'est pas la même chose. Hein.
Non, non, tout à fait. Ça, tu as raison. Des petites roues, forcément, au niveau maniabilité, on vire beaucoup plus facilement. On a un centre de gravité qui est beaucoup plus bas. On se trouve beaucoup plus confortable. L'avantage du 29 pouces, c'est qu'on a des capacités de franchissement qui est excellente, avec des roues plus grandes, avec des développements concrets, parce qu'il faut dire aussi qu'à l'époque, il y a quelques années, allez, on va tirer 20 ans en arrière, on avait des pédaliers qui tiraient gros, on tournait peu au niveau fréquence de pédalage et cadence, donc on tirait du gros bras, donc il fallait vraiment un vélo rigide, voire semi-rigide. C'était Absalon, je crois, hein, et qui était sur un semi-rigide quand il est champion olympique, je ne veux pas dire d'erreur, mais il faudra vérifier. Maintenant, forcément, quand on voit les pros, c'est la question, est-ce qu'on prend un tout suspendu, un semi-rigide, et on va dire 99,9% des gens sont tout suspendus quand même avec des 29 pouces pour la capacité de franchissement, la meilleure absorption. Et il y a une question de fatigabilité aussi, un vélo un peu plus costaud, un peu plus confort, et ça se prend, hein.
Ouais, non mais c'est intéressant, hein, de voir en fait la différence. Moi ce qui m'éclate, c'est qu'en fait j'ai l'impression qu'avec mon gravel je double tous les VTT. J'en ai fait expérience hier encore sur un chemin. J'ai vu un VTT, j'ai vu un vélo au bout, j'ai dit ah bah tiens, je vais aller croquer pour voir un petit peu. Alors, il m'a manqué 10 mètres avant qu'il tourne à droite et moi je suis parti à gauche, j'ai dit zut. Mais bon, quand même ça fait j'ai l'impression quand même qu'avec le gravel on va super plus vite qu'avec un VTT, quoi.
Complètement, oui, parce que le gravel, justement, a quand même une résistance au roulement avec des pneus plus fins. Là, tu vois, mon gravel, des pneus de largeur, ils doivent être en 38. Je crois que sur un VTT, c'est beaucoup plus large. Donc forcément, il y a cette résistance au roulement qui est différente. À savoir aussi que sur un VTT, si vous voulez optimiser, c'est pas pour rien qu'ils ont créé des pneus dry, donc secs, et des pneus plutôt winter ou terrain gras. Il y a une réelle différence sur, il y a une réelle réflexion de ces fabricants de pneus. Hein. Il y a vraiment un intérêt de changer ces pneus peut-être d'un été à un hiver complètement par rapport à la résistance du roulement et justement pouvoir faire un peu plus plaisir.
Ça joue ça vraiment après sur par exemple sur la posture, sur la résistance, sur la fatigue et tout, les pneus, le choix des pneus qu'on va avoir.
Oui, parce que tu vois, mon gravel, j'ai la possibilité de mettre des pneus route. Des fois, je fais que de la route avec mon gravel parce qu'il est en frein disque et j'ai encore un vélo frein patin pour la route. Et justement, quand il pleut, bon bah des fois, je me dis j'ai un entraînement, j'ai envie de le faire. Je mets des pneus tout plus fins et clairement, c'est voilà, j'ai moins de confort, mais par contre, j'ai plus de rendement. Et justement, on parlait justement de l'ultra distance. Je peux donner justement, de par mon expérience ou d'autres choses, un petit tips. Bah, le pneu en 28, c'est quand même super intéressant pour celui qui veut se lancer dans des premiers 200, 300, 400. Réellement, oui, il y a une différence. Enfin, avant, on était sur des pneus très fins de 23 mm sur la route. Maintenant, en 28, on a quand même un certain confort.
Ouais, après, le problème, c'est qu'en gravel, on a le mix. C'est pas évident d'avoir le mix, hein, de savoir sur quoi il faut partir.
Complètement. Alors là, je suis tout à fait. Là, on est en pleine réflexion. Avec Aline, on voudrait faire un événement de 500 km dans le Vercors, mi-route, mi-chemin. Voilà, là, j'ai des pneus secs. Est-ce que je prendrais des secs? Est-ce qu'il me faut apprendre à rouler avec des pneus humides? Des fois, la réflexion, c'est les goûts et les couleurs. Il faut tester. Je pense qu'il faut se faire soi-même sa propre expérience aussi sur l'endurance du pneu, le confort. Mais ouais, je pense que bah, finalement, je peux répondre à ta question par un oui. Oui, le pneu joue complètement sur le confort et la performance du vélo.
Bon, moi, sur mon fixie, j'avais des pneus lisses, c'était drôle, c'était rigolo, on s'éclatait bien. Mais bon, sur les chemins, les pneus lisses, c'est pas pareil.
Non, bah, non, je pourrais te le déconseiller là aussi par un oui catégorique. Mais le plaisir, il faut s'amuser, le vélo est un jeu pour moi, donc il faut savoir faire plaisir.
Non, mais et ça, je suis d'accord. Alors ça, c'est un truc dont j'en avais discuté notamment avec Nathalie Bayon, Camille Pic et tout. C'est-à-dire que c'est vrai qu'en plus, c'est grisant la vitesse quand on commence à prendre de la vitesse, etc. Oui. L'autre jour, j'ai dépassé à Yvan dans le dos. Hein. Je me suis retrouvé à 52, 53. J'ai dit, oh, voilà, mais attends, ça avance vite.
C'est
plaisant. Ouais, après 20 fois, j'étais à 13. Alors là, j'ai dit, vous.
Et là, on se déteste. Mais c'est grisant la vitesse. Hein. On est tous pareils. C'est grisant. Il ne faut pas oublier la sécurité. Mais quand on a une belle route, un beau macadam, ou un chemin bien lisse de gravel, un peu dans un sentier avec quelques arbres autour, on se fait dire quand même. Hein. Il y a quand même se dire, bon, des fois, j'en baffe sur mon vélo, mais quand on voit l'autre côté de la vallée, on se dit, ah, je fais tout ça pour ça, c'est cool.
Bon, revenons-en à l'histoire de la posture. Alors, attends, tu parlais de la triade. Alors, la triade, il y avait quoi dans l'histoire de la triade?
Eh bien, dans cette triade malheureuse, en fait, sur ma formation de fitting, on parle du pied, selle, guidon.
D'accord.
Le réglage d'abord du pied, les fourmillements dans le pied, parce qu'en fait, on va se retrouver par une mauvaise selle mal réglée et elle va engendrer plein de répercussions. On va dire 80, là maintenant, depuis le début de l'année, depuis ma formation, je dois être à une trentaine de fittings. Honnêtement, sur 30 fittings, je crois que j'ai eu 25 mauvais réglages de selle,
d'accord,
à peu près. Voilà, ouais, c'est la selle qui est le point névralgique souvent. Souvent, une selle trop haute, je dirais sur les 25 mauvais réglages, je dirais qu'il doit y avoir 4 selles trop basses où les gens chargeaient trop au niveau des cuisses. Et le reste en selle trop haute.
Mais
et après, sans parler de l'avancée de la reculée de selle.
Ouais, mais alors, tiens, en parlant de pied, tant qu'on y est, moi, il y a un truc que j'ai découvert. J'ai pas encore mis mes pédales automatiques, mais tiens, ça, c'est intéressant.
Ouais.
Sur l'histoire de la. Toi qui connais mécanique, biomécanique, posture, etc., toute
bien
la
sûr.
Vision des choses, le débat. Parce qu'en fait, au début, je crois qu'il n'y avait pas débat sur les pédales automatiques. Et puis en fait, Adeline a même foutu le doute. Camille aussi, je crois, m'a foutu le doute en disant non, mais moi j'ai vu des gens qui roulent sans pédale automatique, sans aucun problème sur ces distances-là, etc. Ça change quelque chose sur la posture, l'histoire d'avoir des pédales, sur le confort, sur la muscu, sur l'effort musculaire et tout.
Alors, oui, la pédale auto va jouer au niveau muscu et au niveau confort, elle va jouer aussi. Quelqu'un qui a une pédale plate sans forcément contrainte, j'ai une personne qui roulait en pédale plate, le prenait en loisir, son vélo puisse rouler et il roulait en grosses chaussures de ville. Pour lui, justement, le fait d'avoir le pied libre, il avait des douleurs aux genoux, il était beaucoup plus confortable. Il roulait sans cale, libre à lui, et j'ai dit, ok, je suis amusé et tout ça. Puis on reprend, je crois que c'est une Morton, non. Si, c'est ça, qui roulait chez, comment
Oui,
Ouais,
qui a fait le
c'est
tour
ça,
de
je veux pas
France,
dire.
qui a fait le tour de
Ouais,
France
c'est
tout
ça,
seul,
c'est lui.
là, en claquette,
Ouais,
hein, en
tout à
basket.
fait. Et, ouais, voilà, parce qu'en fait, il roule en chaussures. Donc là, je vais parler au sens large entre pédale et chaussures. Il roule avec des chaussures carbone, comme les pros. Et donc, la chaussure carbone a tendance à gonfler, à chausser. Donc, à chauffer, à faire des irritations, des douleurs, justement, quand on fait trop de longues distances. Donc, oui, tu vois, la chaussure en carbone avec la cale auto va avoir des répercussions sur le confort, sur le pédalage. Après, maintenant, ils font de très bonnes chaussures. Encore un petit tips, ils font de très bonnes chaussures en composite, donc pas en carbone, qui prendront beaucoup moins la chaleur et qui ont pas le même degré de performance, on est d'accord. Mais pour nous, amateurs, ils auront forcément ma prochaine chaussure, je ne prends pas en carbone, je prendrai une chaussure plutôt en composite.
D'accord. Alors, quand j'ai voulu, j'ai quand même testé mes pédales, mettre la chaussure dessus, et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que dessus, en fait, on peut régler la cale, plus ou moins de vent, etc. Et là, il y a une
Bien
astuce
sûr.
pour bien la caler.
Oui. Alors, pour régler ta chaussure, il y a pas mal de tutos qui sont plutôt bien faits. À l'époque, je l'avais vu sur Internet. Ça, je peux vous le confirmer, vous le retrouverez. C'est bien d'aller chercher votre axe entre la jonction entre le petit orteil et son premier méta. Donc, le petit orteil, vous suivez, vous aurez un os qui sera assez long, ce qu'on appelle le métatarse. Justement, c'est prendre cette jonction-là. Je la dessine sur ma chaussure. Je mets un petit scotch électrique, je la dessine sur ma chaussure. Et ensuite, je fais la même chose avec mon gros orteil. Je suis mon gros orteil et la jonction avec le premier méta. Ça va me donner une diagonale. Une fois que j'ai cette diagonale, je trouve mon point au milieu. Et je le règle avec le milieu de ma cale, tout simplement. Une fois que j'ai ça, mon pied sera bien réglé et je réglerai ma cale en dessous. Ma cale, peu importe la marque, de grande marque de distributeur, et vous pourrez régler votre cale en dessous, plus ou moins avant ou arrière.
D'accord. J'ai même vu, parce qu'il y a là on parlera des études posturales tout à l'heure, mais j'ai vu des magasins qui proposent des réglages juste de
Ah
ça,
oui?
hein.
Ouais. Oui, tout à fait. Justement, je travaille avec une boutique à Clermont. Qui est un passionné dans le vélo aussi, qui a travaillé pour une marque de vélo et tout ça.
Tu
Et
peux dire le nom, hein? Vas-y, dis le nom, c'est
allez, ça
Tempo.
marche. Et ben, c'est Tempo, ouais.
Ouais, j'ai vu que
Ouais,
lui, il propose ça. En plus, ça coûte pas cher, ça coûte 20 € un truc comme ça en plus. Hein.
c'est ça. Ouais, complètement. Et c'est hyper fiable. C'est hyper fiable. J'ai vu beaucoup de mauvais réglages. Alors moi, j'ai ma petite habitude de kiné. J'aime bien trouver tout ça mes axes. Mais son réglage, pour l'avoir essayé sur moi-même, pour la kiné a démontré, ça marche du tonnerre. Vous mettez votre pied, en fait, ça va vous calculer directement votre angle en glissant le pied dedans, ça va vous courber les orteils, et à partir de là, sur la chaussure, il arrivera à le reporter et à avoir directement le bon réglage de cale. Pour tous les clients qu'il a eu et qu'il a réglé lui-même la cale, je ne vais pas lui lancer des fleurs, mais tout était bien réglé. Donc non, l'appareil fonctionne bien.
Ouais, mais en fait, je vais te dire pourquoi, parce que j'ai regardé en fait ce qu'il proposait comme truc, et j'ai vu ça, et j'ai dit, bah tu vois, moi j'ai pas le budget pour faire une étude posturale, mais quand même le truc là, bah, ça m'intéresse, parce que je me dis que la répercussion sur le reste de la jambe et de la position doit être quand même énorme.
Complètement. Je dirais que sur beaucoup d'études que j'ai eues, j'ai modifié les cales. Clairement. En fait, le pied, la réponse du pied au sol est tellement importante. C'est comme en course à pied, mais on la sous-estime. On se dit, bon, on appuie sur une pédale, elle tourne et tout ça. Non, parce qu'elle va avoir une répercussion directement sur les genoux et c'est trop, trop important. Donc, non, non, clairement. Puis sur la stabilité de la selle, une cale mal réglée, je vais appuyer un peu avec le talon, appuyer dans l'autre sens, ça fonctionnera pas.
Bon, et ben comme ça, moi tu vois, mais ça c'est un truc, j'avais dit, je vais aller le voir. Ça fait 2 fois que je passe devant la boutique, je passe pas aux bonnes heures, faut que je repère les heures pour le voir. Et non, mais le jeudi matin, il est fermé, je suis passé, ça fait 2 fois que je passe le jeudi matin, je me dis, mais je suis bête, etc. Mais c'est pas grave, hein, je suis pas encore organisé assez, tu vois, moi sur les marchands de vélo encore. Mais bon, pour ceux qui sont à Clermont, et tout le monde me le recommande, et en plus, je le dis, parce qu'il fait des sorties, il organise des sorties gravel, j'avais appris.
Oui.
Et donc, des fois, quand on cherche un petit peu à trouver du monde qui roule et tout, bonne adresse. Pour ceux qui passent à Clermont, allez voir.
Ouais, clairement. Et puis, bah, pour avoir déjà participé justement à une des sorties, c'est bon enfant. C'est le but, c'est de sortir, de s'amuser un petit peu, de discuter vélo, parce que bah, justement, il y a un gros partage d'expérience. Et c'est là aussi où moi j'ai appris beaucoup de choses. En fait, l'expérience, c'est rien. Il y a pas de mieux.
Alors, dans la triade, donc pied, selle, guidon, c'est
C'est
ça?
ça.
Je me trompe pas. Bon, tu as parlé de l'histoire de l'avancée de la selle, là, plus ou moins avancée,
Ouais.
etc.
L'avancée, le recul, le sel.
Ouais.
Alors, avant de parler, avant, je me permets, justement, sur la selle, il y a des becs courts et des becs longs, justement. Maintenant, la mode est au bec court actuellement, et puis ils ont beaucoup, les vélocistes, vendu des becs longs dernièrement, parce que bah, c'est ce qu'ils avaient aussi en stock, de par la conjoncture actuelle et le Covid. Mais voilà, cette selle, elle, en fait, il y a la selle, et en dessous, on appelle ça un chariot. Le chariot de selle. Et ensuite, il y a la selle, mais il y a aussi la tige de selle qui est à prendre en compte. Voilà. Une fois qu'on a tout ça bien en tête, la tige de selle, mon chariot de selle et ma selle qui repose dessus, bah, cette selle, elle va s'avancer ou elle va reculer. Ce réglage va être optimal, en fait, en fonction de notre placement du genou par rapport à la cale. Il est bien évident en fait que si mon genou, je vais avoir le maximum de force, il doit pousser vers le bas, bien aligné avec la cale. C'est grâce à l'avancée ou le recul de selle, une fois qu'on a déterminé la bonne hauteur, qu'on va pouvoir régler ça en fait.
D'accord.
Tout simplement. Ouais. Ouais, donc je prends mon centre articulaire de mon genou, mon centre articulaire tombe avec le milieu de la pédale qu'on a préalablement bien trouvé, bien aligné avec notre cale, et en fonction de mon avancée et mon recul de selle, je serai bien installé sur mon vélo.
C'est magique.
Ouais, c'est la théorie.
C'est la théorie. Non, mais après, il y a une question que je me pose quand même, c'est que la fatigue, les nombres de kilomètres,
oui,
etc.
Oui.
Et puis, je ne parle même pas quand vous partez là sur plusieurs jours et tout. À un moment donné, on doit modifier sa position. Adeline, elle me disait, il faut s'entraîner à faire de la danseuse parce que des fois, on n'arrive plus à poser les fesses sur la selle, etc. Et tout.
C'est elle pas a évident, totalement raison. Ça. Ouais, on revient sur l'histoire de contraintes. Le corps s'adapte, c'est des adaptes. En gros... Je dois m'entraîner à varier toutes ces positions-là. Tu vois, on a fait l'année dernière le Biking Man X. J'avais que 2000 bornes au compteur parce que bah, professionnellement, j'étais un peu occupé. Et ben, le problème, c'est que je suis arrivé moins entraîné que les années précédentes. J'avais fait le Biking Man France et au moins avec 5-6 000 déjà d'entraînement. Bah, là, j'en avais que 2000. Bah, ouais, faut accumuler un peu de kilomètres. Faut connaître son vélo, connaître son confort et être le plus critique possible sur son vélo. Et je me suis retrouvé avec une douleur au genou. Ben moi, je me suis dit, tiens, je vais monter un peu ma hauteur de selle pour soulager mon genou. Donc oui, il faut connaître un peu ces astuces-là. Plus je monte ma selle, plus je charge l'arrière. Plus je la descends, plus je charge mon genou. Après, normalement, si on a un réglage qui est plutôt optimal et on s'entraîne de manière adéquate, on doit éviter toutes ces erreurs-là.
Pour revenir sur la selle, quand même, il y a une question que beaucoup de gens se posent. C'est de dire, est-ce qu'il y a une selle qui fait pas mal aux fesses?
Oui, alors en fait, justement, ensuite, tu me fais rebondir sur la largeur d'ischion. J'ai mon squelette qui est pas loin. La largeur d'ischion, c'est quand on vient s'asseoir sur la chaise et si on glisse nos deux mains sous les fesses, on sent deux os qui viennent écraser nos mains.
Ouais.
Voilà. Une fois que j'ai ces deux os, ce sont les ischions. C'est-à-dire, ces ischions, en fait, ça va être mon tips pour pouvoir calculer ma largeur de selle. C'est comme ça qu'il base. Si on va chez une marque très connue, du champion du monde de vélo, chez SP, ils utilisent Morphologix et en fait, ils installent les gens sur une espèce de plaquette. Les gens s'appuient et on va voir leur largeur d'ischion. À partir de là, on va calculer. Admettons, je fais une largeur de 130 mm, 13 cm. Je vais rajouter 15 à 20 mm sur ça et je vais avoir une bonne largeur de selle où là, je serai stable sur ma selle. Je ne vais pas me dodiner ou devoir me mettre en travers sur ma selle. Voilà, ça, c'est déjà l'astuce essentielle à savoir. Après, vous n'êtes pas obligé d'aller chez eux. Désolé pour eux. On peut utiliser un carton et on va s'asseoir sur un carton et on va régler en fait avec des petits bâtons. On va venir écraser ce carton. Vous savez, quand ça fait des tridules, on s'assoit dessus, on va écraser, on va avoir nos deux points d'ischion. Je mesure au plus large et j'ai ma largeur à deux selles si je rajoute mes 20 mm.
Bah voilà, bah écoutez, bah vous avez. Parce que je sais pas, ces machines-là, on les trouve partout. C'est les magasins qu'on a ou...
Ouais, oui, bah nous, on marque avec. C'est la marque italienne Prologo chez Tempo qu'on utilise. Moi, j'utilise ma table de kiné et je viens repérer manuellement parce que c'est difficile à s'en fournir sur Internet actuellement. Mais ouais, la majorité dans le monde des magasins doivent en avoir, je pense. Ouais, ouais.
Bon, bah écoute. Alors après, quand même, il y a une question parce que j'ai vu qu'on faisait des selles moulées, enfin d'après le moulage des fesses, les selles en 3D et compagnie là.
Oui, alors c'est des selles vraiment de haut de gamme, mais qui coûteront assez cher. Comme il y a des selles de marque en cuir, il y a plusieurs selles, je crois Infinity ou Infinity Bertou. C'est des selles en cuir qui doivent s'adapter et qui vont s'adapter, qui se resserrent manuellement à force de rouler, qui vont s'adapter justement à notre morphologie du bassin. J'ai pas assez d'expérience là-dessus. J'ai eu des retours de personnes qui en sont enchantées, qui disent qu'ils changeront jamais parce qu'en fait la selle s'est formée à leur bassin et qu'ils sont hyper confortables. Ils la resserrent de temps en temps, ils l'entretiennent, ils l'hydratent, ils passent une crème dessus et ils en sont super contents. C'est comme tout, il faut l'essayer, calculer la bonne taille, se rapprocher de quelqu'un qui en a déjà utilisé une ou d'un vendeur. Et souvent, ils proposent, ça c'est l'avantage, des selles tests où vous pouvez rouler un certain nombre d'heures et vous faites un retour avec. Ça, c'est intéressant.
Mais en fait, j'avais regardé parce qu'à un moment, je regardais les selles Brooks et qui sont en cuir justement. Et alors, on dit qu'il faut les faire à ses fesses. Une fois qu'elles sont faites, après, on est super confortable, etc. Mais tu sais quoi, même en regardant les selles Brooks, quand on regarde sur le site de Brooks, il y a tellement de choix de selles différents. Que ça met un doute énorme en fait.
Ça met un doute. Et même nous, des fois, d'avoir la meilleure réponse pour la personne, c'est hyper difficile. Parce que des fois, moi, je prends ma, on en parlera après des études posturales, mais je prends ma longueur de ma sortie de tube de cintre, pardon, et je prends jusqu'à ma pointe de selle et je mesure jusqu'au nez de selle. Et les gens me disent, mais pourquoi tu ne prends pas derrière? C'est toujours difficile. Là, je vais un peu casser le truc. Si vous faites une étude posturale, vous changez de selle, ben, il faudrait refaire un petit peu l'étude posturale ou brièvement autour de la selle. Là, c'est, si vous sortez d'ici aujourd'hui, il faut retenir que la selle, c'est le primordial sur le vélo. Il faut être confortable. On ne peut pas sortir et être inconfortable sur un vélo. Ça n'existe pas. À chaque personne, sa selle et son installation.
Voilà. Bah écoute, au moins ça c'est la grande leçon qu'il faut retenir. Non mais c'est vrai parce que on passe, on rigole toujours sur le truc. On disait je fais du vélo sans selle, mais non c'est pas possible. Et
Ah mais c'est sûr. Attends, c'est plutôt fait chambrer souvent là-dessus.
Ouais, c'est la blague, etc. Et tout, mais tout le monde l'a fait dans la famille et tout. Bon,
ouais, elle est facile et on rigole.
Ouais, elle est facile, on rigole. Et puis surtout qu'en plus les gens se rendent pas compte, mais bon c'est vrai que quand tu regardes le Tour de France, tu vois les cyclistes qui montent en danseuse, etc. Quoique. Hein, sincèrement, on les voit pas si souvent danseuses que ça, et puis on les voit ceux qui pédalent à toute vitesse là. On voyait Froome et compagnie qui pédalaient comme une petite mobilette. Je me demande d'ailleurs pour pédaler comme ça, cette vélocité. On en avait parlé avec un peu Adeline, mais là, je pense qu'il y a un truc qui joue aussi, c'est la position. Ça joue sur cette capacité à tourner les jambes vite ou quoi des choses.
Complètement. Complètement. Admettons un mauvais réglage de selle. Ben quand je vais arriver, on pourra parler après des braquets, mais un mauvais réglage de selle, une selle trop en arrière, trop en avant. Et bien forcément, quand on va arriver en ascension, on n'aura pas le bras de levier qui sera bien aligné. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me mettre en danseuse pour tirer du braquet et pouvoir monter plus facilement. Et on va varier de position. C'est sûr que pour eux, faire de l'hypervélocité, il faut que la selle soit bien réglée. Parce que si je fais de l'hypervélocité, qu'est-ce qui va se passer? Je vais rebondir sur ma selle. Et justement, il faut à tout prix qu'on reste bien posé sur sa selle si on veut faire de l'hypervélocité. Donc oui, le réglage de selle est forcément important là-dessus.
Ouais, bon, eux, après, les études posturales, c'est avec le nombre de kilomètres qu'ils font dans l'année, c'est pas leur problème.
Non, mais figure-toi, on peut en parler. Quand j'ai fait ma formation avec Physio Vélo, on a eu la chance d'avoir un podologue avec nous et le médecin de la BNB. Et en fait, il y a beaucoup, beaucoup de sportifs de haut niveau sur le vélo qui ont des problèmes justement de selle avec des troubles de l'émission, donc des difficultés à uriner et tout ça. Donc, c'est justement un fléau même pour eux de trouver la bonne selle. Et eux, encore plus que pour nous, ils sont obligés, quand vous marchez avec une marque, d'avoir la marque, en fait. Ils ne peuvent pas maquiller les selles. Donc, ouais, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. On le sous-estime, en fait, hein, justement. Et ça aussi, c'est important. C'est pas normal si je rentre du vélo et j'ai du mal à faire pipi ou j'ai eu mal à la vessie ou je suis obligé d'aller souvent aux toilettes. Ça a été mon cas, je peux en parler facilement. Eh ben en fait, quand je fais du vélo, Adeline me dit « mais tu passes ton temps à uriner ». Ben ouais, ma selle est mal réglée en fait, et ça venait de là.
Ah ouais, ben hey, ouais. Hop, un tips de plus. Et attends, là franchement, ouais. Tu nous fais une liste de tips, c'est juste énorme quoi. C'est la masterclass, je te remercie, c'est dingue. Alors attends, il y a un truc à rajouter sur la selle ou…
Bon, je crois qu'on a dit pas mal de choses. Après, forcément, il faut se rapprocher de quelqu'un derrière un professionnel pour être le mieux orienté. Et puis, bon, les vendeurs ont quand même une part importante. Hein. Ils vont vous conseiller sur la largeur de selle et sur les nez de selle. Il faut essayer. L'avantage, je connais peu de vendeurs qui faisaient la tête quand vous allez les voir et vous leur dites « j'aimerais bien essayer une selle. Est-ce que vous êtes d'accord? Je l'essaye. » Ah si, dernier truc. Bon, désolé, je vais faire mal au constructeur, mais je suis un pas très fan des selles carbone. Les selles carbone actuellement n'ont pas une grande fiabilité et ont tendance facilement à casser. Si vous avez du gain à faire, n'allez pas le faire sur la selle et ça coûte un petit peu cher.
Il y a une question que je me pose, tu vois, pour ceux qui font du bikepacking et tout, qui ont, tu sais, on met des trucs sous la selle là. Alors quand c'est que des chambres et tout, c'est assez léger, c'est pas, ça pèse pas lourd. Mais si on commence à mettre des bagages derrière, ça peut modifier peut-être pas la position, mais la résistance ou je sais pas quoi.
Ben, là, je vais parler aussi de mon expérience personnelle. Donc, j'ai fait plusieurs ultra-distances et j'ai roulé justement avec un stabilisateur derrière. Ça coûte pas très cher et je vous le conseille. Ça évite que la selle balance et ça évite d'avoir des contraintes et qu'on se déhanche au niveau du dos. Et ça évite toutes ces douleurs au niveau du dos. Donc déjà, ça, je peux vous le conseiller assez facilement. Ça coûte pas très cher. Je crois une vingtaine ou 25 euros. Donc franchement, c'est cool. Par rapport à la sacoche, ça coûte un peu plus cher. Après, oui, ça va. Moi, quand je roule avec mon vélo, dans les grandes descentes de col niveau alpestre, ça stabilise, et on est d'accord avec Adeline, ça redescend un peu le centre de gravité au proche de la route, donc ça stabilise énormément de rouler avec un stabilisateur et une sacoche assez longue derrière. Ça, c'est assez amusant de rouler. Quand je reroule sur la route sans, eh ben, j'ai tendance à repartir en danseuse, dire « Ouh là, attention, ça me déporte un peu plus et il faut faire attention. » Ouais, complètement, il y a une deuxième façon de piloter. Ouais.
Ouais, avec Adeline, on avait parlé, on a dit que les sacoches de vélo, quand même, quand ça prend le vent, ça nous déporte.
Ah, par contre, oui. Ouais, complètement. Les sacoches de vent, surtout, je vous mets en garde, c'est sur les top tubes et tout ça, les sacoches qui sont en plein milieu du cadre. Si vous prenez un vent de travers, c'est comme des jantes avec une grosse hauteur. Attention, parce que ça peut faire drôle.
Mais alors, tiens, alors ça serait intéressant en tant qu'on y est sur ces histoires de sacoches. Quand tu n'as pas besoin, tu vois, quand tu pars sur une journée, une grosse journée, on va dire, tu vois, un gravelman, bon, un half, on va dire, sur la journée, on va dire 2 jours, tu vois, dans ces zones-là, ça serait quoi le mieux en sacoche? À Amy, tu vois, j'ai des trucs à porter, à manger, des choses comme ça, ça serait où, la mettre où le mieux?
Pour moi, c'est de garder une sacoche derrière la selle, puisqu'elle est dans le prolongement et au niveau aéro, ça se porte plutôt pas mal, et d'en avoir une petite devant pour pouvoir mettre une batterie, un téléphone et du matériel rapide dont on a besoin sur le vélo.
Parce que tu vois, tout à l'heure, je suis allé dans une boutique de vélo, j'étais en train de regarder, je disais, attends, est-ce que je mets un top tube, est-ce que je mets un truc devant, parce que j'en vois plein qui ont des petits paniers devant, là, où il y a plein de trucs, petits bordels, etc., tu vois.
Ouais, tout à fait. Moi, j'en ai pas devant, j'ai juste un rond où je mets des affaires sur lesquelles je n'utilise pas, type des chaussures. Quand on a fait la Norvège avec Adeline, j'avais mes chaussures dedans, tout le matos que j'utilisais pas. Par contre, j'avais une petite top tube où je mettais voilà, tout ce que j'avais besoin. Adeline, c'est des Tagada, allez, je la vois un peu. Mais,
elle l'a dit, j'ai même la photo, alors j'ai la preuve. Alors,
ah, ça va alors.
Il faut que tu me trouves un autre truc.
Ouais, j'en trouverai, vous inquiétez pas. Mais moi, je mets tout un petit peu mon matériel dont j'ai besoin. Quand on a fait justement la Norvège, on enchaînait des ponts entre jour, nuit, ben, je mettais ma frontale, je l'enlevais du casque, parce que ça pèse un peu lourd, justement.
Quand ouais, ce que j'ai dire aussi.
Faut apprendre à rouler avec. Ouais, complètement, faut apprendre à rouler avec. Moi, j'apprécie justement, ça c'est mon expérience, d'avoir la frontale et pas forcément un phare sur le vélo, parce que quand vous pédalez avec la frontale, vous pouvez tourner la tête droite-gauche et voir qui vient et vous signaler plus facilement, je trouve ça intéressant. Le phare après, central sur le vélo, ça permet d'avoir un peu plus de lumière. Attention, l'humaine, hein, pas trop éclairer les voitures en face, mais voilà, moi, sur ma top tube, je mets tout ce dont j'ai besoin.
D'accord, ouais. Moi, le phare sur mon vélo, il est tellement pas puissant que... Même les lapins, ils me regardent en rigolant, tu sais.
Donc... Ah oui, non. Ouais. Je sais qu'il y en a certains, ils ont des phares qui éclairent beaucoup. Achetés à l'étranger, je sais qu'en Allemagne, ils en vendent. Alors forcément, on voit bien, mais faut pas oublier qu'on est bouillé aussi un peu.
Ouais, sur mon fixie, j'avais un phare qui éclairait, mais vraiment ma stock. C'est vrai que les bagnoles, elles étaient gênées avec 4 grosses LED et tout, qui étaient énormes. J'ai retrouvé, donc il faut que je le remette sur mon vélo. Parce que c'est vraiment. Non, mais c'est vrai, en ville, c'était vraiment top pour être super bien vu, etc. C'était super pratique. Et je me dis, sur mes petits chemins, là, quand je vais rouler la nuit, pour m'entraîner à rouler de nuit, et c'est une bonne remarque, hein, l'histoire de dire, il faut s'entraîner à rouler de nuit aussi, l'histoire de la frontale, parce que ça. Enfin, une frontale, ça pèse quoi? 200 grammes, peut-être, avec les batteries quand même.
Ouais, ça pèse assez lourd, hein. Elle est avec une batterie rechargeable, la note, ouais, 200 grammes facile, ouais, c'est possible. Et puis c'est sur l'avant du casque, donc on a tendance à baisser un petit peu la tête vers l'avant. Donc ouais, complètement, ça joue. C'est comme justement, tu me donnes une perche par rapport aux gens qui ont des lunettes avec les verres progressifs. Mmh. Souvent, ils se plaignent un peu de douleur justement à la nuque avec le casque. Parce que les lunettes, ils ont tendance à vouloir regarder au-dessus parce que le changement de vision avec les lunettes, ça les gêne. Ça aussi, je peux que les mettre en garde par rapport à ça. Peut-être adapter un carreau. Maintenant, la marque Julbo développe ça grâce à des coureurs qui ont des troubles de la vue. Et justement, je pense qu'on y arrivera avec des lunettes de qualité à un prix assez raisonnable pour être confortable sur le vélo. Ça, ça va être bien.
Ouais, c'est vrai que ça joue vachement. Et moi qui vieillis, je vais te dire, ça y est, j'ai jamais dit des vieux là. Je vois plus de. Avec mes lunettes, je vois de loin, mais plus de près. Donc je les enlève, je les remets, etc. Et en vélo, tu sais ce que je fais? Je mets pas mes lunettes. De toute façon, ça me gêne pas. Je fonce.
Si j'entends klaxonner, je ralentis.
Si j'entends quelqu'un, alors pour la blague, il y a quelqu'un tout à l'heure qui m'a dit, je t'ai vu passer en ville. J'ai dit, ouais, je t'ai pas vu. Non, mais c'est, en fait, les personnes, non, en fait, pour la blague, c'est vrai que des fois, je vois pas les gens, mais c'est parce que, en fait, je fais pas gaffe, si je regarde mes trucs, etc. J'étais dans les rues piétonnes, donc c'est pour ça que je voyais pas grand monde. Et je revenais justement, je passais juste devant Tempo, tu vois, dans les petites rues, etc. Mm-hmm. Et donc, c'est pour la blague, mais c'est vrai que je commence à avoir la maillie des vieux, et ma sœur, l'autre jour, s'est foutue de ma gueule en disant, bah tiens, toi, tu commences à mettre tes lunettes, à les enlever, etc. Et c'est vrai que, il va falloir que j'aille voir aussi dans un magasin pour voir, pour adapter, avoir des lunettes adaptées à ma vue. Et c'est vrai que c'est une très bonne remarque parce que c'est pénible. Enfin, franchement, c'est pénible quand on a ces espèces de vues entre les deux là qui sont vraiment pénibles. Et tu vois, je me moquais beaucoup des gens quand ils vieillissaient. qui tendait les bras, etc. Mais je me rends compte qu'en fait, à mes petits 46 ans, bientôt 47, bah, c'est en train de me toucher moi aussi. Tu vois, je deviens mon petit vieux.
Ben ouais, complètement. Et puis, on va être gêné, par exemple, celui qui roule et qui utilise une map sur son GPS, quoi. Tout ça, c'est des petits détails, mais ouais, c'est embêtant si on est obligé de s'éloigner, de se dire mince, je vois pas très bien, et tout ça. Donc, je pense, par rapport aux grandes marques, ils sont en train de prendre le problème et ils sont en train d'essayer de trouver des astuces. Ça va être bien, ouais.
Alors, sur la selle, je pense qu'on a dit un truc. Il y a quand même un truc qu'on n'a pas dit. C'est l'histoire de la taille du vélo. Parce que là-dessus, ça joue forcément sur la posture, cette histoire de taille de vélo. Mm-hmm. Sur le côté, être à l'aise ou pas. Et c'est vrai que j'ai une discussion avec plusieurs personnes qui m'ont dit qu'ils hésitaient souvent entre deux tailles de vélo et que ce n'est pas si simple que ça à choisir. Tu as une astuce?
Eh bien, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'en plus, d'un vélo à l'autre, les tailles sont différentes. Vous prenez, j'ai deux marques de vélo chez moi et en fait j'ai deux tailles quasiment différentes pour une même taille revendiquée. Donc c'est assez difficile. Je pense qu'il faut regarder un petit peu déjà sur les réglages. Il y a des vélos qui ont des réglages de selle qui vont être un petit peu compliqués et je vais peut-être les éviter, ces vélos-là, plutôt les laisser pour des coursiers qui sont capables d'absorber plutôt pas mal de contraintes. Et un vélo plutôt typé endurance, là, on sait qu'on aura plus de marge de manœuvre. Une autre chose, les vélos avec guidon intégré, cintre intégré, je le déconseille peut-être en premier vélo. Faites-vous plutôt la main sur un vélo d'occasion à essayer déjà la marque et voir si le vélo vous convient avant de partir sur un vélo neuf et se dire tiens, j'achète directement le Super Canyon que j'ai vu en promo dans la boutique parce qu'il a un cintre intégré. Ouais, attention, parce que justement, il n'y a pas de possibilité de réglage, quoi. Mais ça va vite être une contrainte. Donc, il n'y a pas de grandes astuces. Il faut essayer le vélo parce que d'une année à l'autre, sur un même modèle, d'une même marque, ils sont capables de changer la taille de quelques millimètres, de quelques centimètres. Et ça, c'est une vraie problématique.
C'est drôle que tu cites Canyon parce que c'est la marque qui maintenant ne se trouve plus en magasin, qui fait que de la vente en ligne. Et
oui,
je me dis,
vrai,
comment choisir ce vélo-là? Parce que pour l'anecdote, une copine cherchait un vélo Canyon et je lui dis, je vais les voir en magasin si au cas où ils n'ont pas une astuce. Et il m'a dit, franchement, non, c'est pas possible. Et en plus, c'est la merde parce qu'il y a des pièces particulières, ça met des mois et des mois à réparer. On a du mal, etc., à les réparer. Et c'est vrai qu'il y a ces histoires en plus de pièces intégrées, de trucs où il faut tout changer d'un coup. Ils ont une super gueule, mais je me dis, comment arrive à choisir un vélo? Alors, tu as vraiment par des mesures et tout, c'est pas facile, quoi.
Ouais, non, c'est clair. Là, on a parlé de Canyon. C'est vrai qu'en plus, c'était sur un site en ligne. J'ai dit une bêtise, mais tu prends, par exemple, le Propel de chez Giant, qui est quand même un fournisseur assez bien répandu et qui a des vélos faciles et je trouve confortable à piloter pour en avoir un moi-même. Mais le problème, c'est que le Propel, c'est un guidon aussi avec un centre intégré. Et demain, si la taille n'est pas bonne, je ne peux plus jouer sur les bagues. Ma potence est déjà pré-réglée. Il faut savoir qu'une potence, elle se règle en hauteur et vers le bas. Donc, si la potence, je voudrais la régler, cacahuète, c'est pas possible. Donc, on peut vite être gêné justement sur les ajustements du vélo. Et c'est dommage parce que faut vraiment être sûr quand on achète ce vélo-là, plutôt de s'être fait la main sur un autre vélo. C'est une des seules astuces que je peux conseiller.
Donc ça sur le sort des choix de vélo, mais c'est vrai, hein. Et même en magasin, hein, il y en a, ils hésitent, hein. Quand tu fais une taille, ils disent faudrait voir entre ces deux tailles, etc. C'est pas évident.
Complètement.
Hein.
Ouais, complètement. Moi, j'ai eu l'expérience, c'est toujours important de partager un peu son expérience. Moi, j'ai acheté chez mon vélociste ce vélo et il m'a dit moi, je vais te proposer une taille peut-être un tout petit peu plus petite. Donc chez Giant, ils font des entre-deux, c'est une taille ML. Et justement, pour les tailles un peu bâtardes comme moi, j'ai pris cette taille-là et ça me convient bien. J'étais satisfait, mais chez Orbea, ils ne l'avaient pas. Je roule en Orbea maintenant. Et la taille est L et elle est un tout petit peu plus grande. Je sais que je dois mieux ajuster mon vélo et il a plus de contraintes pour moi.
Ouais, c'est vraiment tout un élément et tout. Et en plus, on va y rajouter des choses parce que, là, on va venir maintenant sur le fameux guidon, sur le cintre, etc. Et en fait, on découvre même, moi, je ne savais pas au départ, que même il y a des largeurs différentes. C'est-à-dire que sans parler des réglages de profondeur et tout, il y a des largeurs différentes aussi.
Ouais, complètement. Alors, la largeur de cintre, il y a des cintres qui sont évasés, qu'on retrouve beaucoup dans les gravels, avec des flares, ils appellent ça. Avec une différence où le cintre peut faire un 40 de hauteur et un 44 dans un 46 en bas pour aller chercher plus facilement les poignets pour être un peu plus confortable sur les longues distances. Je crois que c'est une des justifications de ce centre-là. Mais il y a aussi une hauteur de drop, c'est-à-dire une hauteur entre le haut du cintre et le bas des drops où je vais mettre justement mes mains tout en bas. Il y en a, ils vont être en 15 de hauteur, en 10. C'est vraiment délicat. Et ça, je ne le savais même pas, même moi, avant de faire mes analyses posturales, parce que pour moi, un guidon est un guidon. Il y avait différentes largeurs, un peu de flair, pourquoi pas, mais pas forcément de hauteur entre le cintre et aller chercher le bas des drops. Donc oui, maintenant, en plus, ils en sont à faire des cintres avec un repose assez plat pour mettre les mains, pour les vélos type un peu montagnard, pour les longues distances, avec un petit peu de mousse, par exemple, pour absorber les chocs. Voilà, il y a un gros, gros développement actuellement des vélos. Sur le choix du cintre, bah, c'est pas d'avoir un cintre trop étroit. Voilà, c'est vraiment de retrouver une largeur de cintre adéquate à sa largeur d'épaule.
Mais tu vois, moi, par exemple, moi j'ai un Décathlon, un Triban, et en fait, c'est un argument de vente, hein, de dire il est évasé à 16 degrés, tu vois, je suis sur la fiche du site et tout. Et en fait, ils le disent pour plus de confort, et c'est vrai que moi, sur le coup, alors, je l'avais vu dans la fiche, tu vois, j'avais vu le guidon, etc. Mais c'est vrai que tous les modèles ne l'ont pas. Moi, c'est sur ce modèle-là, ils en font partie. Et après, en faisant des recherches sur les guidons, je suis tombé, je ne sais pas quel site, qui parlait justement des courbures, des fameux drops, etc. En disant, bah, tiens, tel coureur avait plutôt une habitude d'avoir un cintre comme ça, celui-ci était plus comme ça, etc. Qui, je pense, correspondait en fait aussi à leur manière de courir, à leur capacité à avoir des postures. Parce que entre rouler les mains en haut et rouler les mains en bas, la posture, elle change totalement. On n'a pas le même confort et tout, quoi.
Complètement. C'est sûr que quelqu'un qui n'est pas capable de toucher ses orteils, je sais qu'il n'ira pas souvent dans les drops. Ça fait partie de notre étude posturale. Quelqu'un qui va s'arrêter au genou, ben, je sais qu'il ne va pas tolérer une grosse hauteur de selle et un gros drop entre le cintre et la selle. S'il me dit, ouais, moi, je veux rouler comme un coursier, je lui dirais, bah, écoute, j'arriverai pas à te trouver la meilleure position adéquate. Il va falloir que tu trouves un compromis ou qu'on trouve un compromis ensemble. Donc, avant de dire oui, il a plus de flair, vous serez plus confortable, je pense qu'il y a quand même un argument marketing. Alors là, c'est la marque Decathlon, mais tous, hein. Je pense qu'il faut déjà avoir un bon guidon avec la bonne largeur adéquate. Je prends ma largeur d'épaule, centre à centre, et je rajoute plus 2, plus 3, voire plus 4 cm grand maximum. Ils disent la norme serait plus 2 cm par rapport à la largeur bord à bord, centre à centre d'épaule.
Ouais, mais c'est là où tu vois où ça devient important l'histoire de dire est-ce que je peux changer mon cintre, est-ce que tout est intégré ou quoi que ce soit, parce que finalement
Ah bah là oui.
c'est là où le vélo devient évolutif et on peut le régler vraiment pour ce qu'on veut faire,
T'as tout dit. Le vélo, c'est pas nous qui devons nous adapter au vélo. C'est parce que c'est le vélo de tel coureur que j'ai racheté d'occasion, c'est le même vélo de tel coureur en mode accessible pour monsieur et madame tout le monde que je dois m'adapter à ce vélo et que je serai meilleur. Non, mon vélo doit s'adapter à moi. C'est vraiment moi ce que je revendique. On doit être confortable sur son vélo. C'est très important.
Oui, surtout quand on est parti pour faire 200, 300, 400, 1000 bornes. Biking Man, c'est combien déjà, rappelle-moi?
Là, c'est 1000. 1000, ouais. C'est 1000 km. Ouais, 1000 km. Et encore, il y a des fous, hein. Ils vont faire la Race Cross France, ils vont faire des 2005, hein. Je les respecte, hein. Mais ouais, si t'es pas confortable à minima sur ton vélo, on se retrouve, hein, on les voit, hein, les gens, ils abandonnent, épuisés, douleurs en genoux. Voilà, c'est dommage de sacrifier une semaine, voire 2 semaines de son temps, si on ne prend pas un minimum en considération son vélo, son confort sur le vélo et ses réglages.
Tu disais, on peut régler donc comment ça, l'inclinaison de la potence. Y a un moyen, enfin, à part faire des mesures et tout pour régler ça, ou c'est quoi?
C'est un petit peu difficile. C'est en fonction de mon angle d'épaule. Si j'ai un angle trop ouvert au niveau de l'épaule, forcément, ma potence est trop longue. Si, donc, je vais soit la raccourcir ou soit la redresser pour me redresser moi sur le vélo. Et je dois garder un minimum de flexion au niveau des coudes pour amortir les chocs. Si forcément j'ai un angle qui est trop fermé, je me sens quasiment le nez au-dessus de mon cintre, j'exagère, mais forcément, ma potence est trop courte. Donc là, je vais chercher à la réallonger. Voilà. Et à partir de là, je vais jouer avec mes drops, je vais faire un compromis. Il y a plusieurs astuces là-dessus. Une même potence, par exemple, j'ai mon papa, il a un BMC, il adore son vélo, mais sa potence, elle a des degrés de réglage qui sont un peu limités. Elle a 9 degrés d'inclinaison vers le bas et elle mesure 9 au minimum et on peut aller chercher jusqu'à une potence de 11. Ben, le problème, s'il veut rester chez le même vendeur de vélo, pardon, je suis obligé soit de l'inverser, donc il va se retrouver avec un plus 9 et 9 de longueur. Voilà. Donc, c'est les seuls réglages. Sinon, je suis obligé de changer de marque, quoi. Mais toutes les potences ne s'adaptent pas non plus, sur n'importe quelle marque de vélo.
Ouais, c'est dommage quand même sur un BMC parce que c'est quand même une sacrée machine, quoi.
Ah oui, il est super beau. Non, mais je lui retrouvais une belle potence qui ira bien sur son vélo.
Non, et pour ceux qui ne le savent pas, quand même, on peut dire BMC, c'est un peu les Porsche du vélo. Là. Ils ont un peu les mêmes. Je sais pas s'ils le font toujours d'ailleurs, un peu le même. Ils ont un peu la même stratégie, un peu d'avoir ces.
Ouais, le BMC, le Villiers, c'est une belle marque de vélo aussi, un peu haut de gamme. Mais oui, le BMC, ouais, ça reste un vélo très épuré. En plus, bah, y a une marque française, AG2R, qui roule avec. C'est des vélos qui sont quand même racés, qui sont tracés, qui sont jolis, bah, quand même, complètement. La Team Machine, il s'appelle là, le vélo, ouais, c'est un beau vélo.
Ouais, il faut un beau budget aussi.
Ouais, c'est un beau cadeau que tu t'es fait.
Non, et en plus, alors je le dis parce que je travaille pour un marchand de vélo et à chaque fois que je voyais des gens partir avec un BMC, je disais, ouah, punaise, mais c'est pas possible. Et en plus, dessus, rajouter les roues carbone, etc. J'ai vu des scènes hallucinantes. Enfin, franchement, pour ceux qui s'intéressent un peu au vélo, qui disent, ouah, c'est cher d'avoir un vélo à je sais pas combien de. Enfin, 1000, 2000, 3000 euros. Enfin, 2000 euros. J'ai vu des papis rentrer dans les magasins en disant, je veux un vélo, j'ai telle enveloppe et repartir avec une enveloppe presque deux fois double quand ils avaient rajouté les roues, les choses comme ça, etc.
Ouais,
ça monte tellement vite l'histoire.
On peut se retrouver avec des vélos, des montages à la carte, avec des vélos. On finit avec un vélo à 6-7 000 euros et encore, c'est pas les plus chers du marché. Hein.
Eh ben, je vais te dire quoi ? Je vais te dire mieux. J'ai vu un jour quelqu'un partir avec un vélo à presque 11 000 euros.
Ouais, mais je suis pas surpris. Ouais,
c'est qui avait pris après, un beau vélo, mais en rajoutant.
Faut savoir l'emmener après. Voilà, le composite, le carbone a quand même un coefficient de déformation. Si on n'a pas les jambes pour l'emmener, on entendra souvent des gens dire bah, c'est un vélo très exigeant. Si je ne suis pas capable de l'emmener, c'est difficile. Voilà. Bah, après, chacun prend son plaisir dans ce qu'il a envie. Et celui qui roule avec un vélo aura envie de rouler peut-être un peu mieux et un peu plus fort. Hein, je ne sais pas, mais voilà, ça va faire plaisir.
Mais tu sais, il y a des trucs, moi, des fois, quand j'ai les magazines de vélo, il y a des trucs qui parlent de souplesse, de rigidité du vélo, etc. Enfin, franchement, bon, les pros, ça, ils savent ce que c'est, mais les autres personnes, on arrive à vraiment le sentir ?
Alors, j'ai un ami avec qui je fais du gravel et tout ça. Il avait un Giant, il est passé chez un Lapierre. Il a senti justement, le Giant, il était très confortable sur le coefficient de déformation du carbone. Il le sentait, lui. Et quand il est passé sur le Lapierre, il m'a dit « Ah, je suis content ». Je suis passé d'un frein patin à un frein disque, mais je regrette tellement mon ancien vélo, j'étais tellement bien dessus. Je pense que oui, celui qui a l'habitude de rouler, alors je sais pas combien de milliers de kilomètres par année, mais il sentira la différence. Quoi. Je pense qu'il y aura quelques années d'expérience, on sent le vélo, justement, l'empattement, comment il se déforme. D'ailleurs, j'ai une anecdote, elle est sympa à donner. Il y a quelques années, je suis allé à Marseille, justement, c'était un colloque de kiné là-dessus sur le vélo, et il y avait un intervenant auprès de la marque Lapierre pour l'équipe française où il y a Renaud Desmarres, la Groupama.
Ouais.
Et en fait, eux, malheureusement, ces cadres-là sont plus fabriqués en France. Et donc, ils sont fabriqués à l'étranger où le carbone n'est pas très cher. Ils récupéraient les vélos, ils les mettaient dans des machines, ils calculaient le coefficient de déformation du vélo. Et si le vélo avait un coefficient trop important, il ne passait pas pour l'équipe pro.
D'accord.
Ouais, voilà. Petite anecdote sympa à savoir sur les vélos. Donc, ouais, il y a quand même un gros développement autour de tout ça sur les coefficients d'information. Alors, les pros, oui, ils vont le sentir. Nous, ouais, je pense que si on est un petit peu averti, on commence à ressentir la différence.
Ouais. Non, mais après, oui, je pense qu'effectivement, quand on passe d'un vélo à l'autre, on doit vraiment sentir que c'est vraiment différent et tout. Attends, j'en étais où ? J'en étais sur. Donc, hop, on a parlé du guidon. Il y a d'autres trucs sur le guidon. Enfin, tu vois, tu parles.
Sur le guidon, oui.
Ouais, vas-y.
Bon, ouais, je me permets, tiens, sur le guidon, il y a tout ce qui est réglage en rotation. Il y a l'inclinaison du cintre. Le cintre s'incline et part vers le haut, vers l'avant. Tu as le réglage aussi des cocottes. Les cocottes, il faut savoir qu'en fait, elles se fixent sur le cintre. Et il y a une boucle à métallique qui nous permet de visser et de serrer la cocotte sur le cintre. Il faut pas trop la serrer, attention, parce que si on tombe, la cocotte vient taper et vient être cassée. C'est quand même dommage, une cocotte, c'est assez onéreux. Voilà, elle a un coefficient de serrage et elle peut être réglée plus ou moins haut. Et grâce à ça aussi, je continue, il y a la guidoline et la guidoline peut être réglée différemment. Par exemple, pour avoir suivi les juniors l'année dernière sur Paris-Roubaix, les pavés, ceux qui vont peut-être faire, il y a Gravelman, je crois, qui passe sur les pavés.
Ouais.
Par exemple, sur les pavés, on peut doubler la guidoline, par exemple.
D'accord.
Voilà, en doublant la guidoline, on rajoute une surépaisseur et on est un peu plus confortable sur son vélo. C'est intéressant à savoir.
Ah ouais, ça suffit pour avoir rajouté du confort, quoi.
Ouais, ça suffit. Alors, faut aimer, hein, parce que justement, ça va rajouter un cintre un peu plus épais. mais on peut doubler la guidoline. Ouais, ouais, ça existe. Pour Roubaix, pour des classiques comme ça, les coureurs pro doublent la guidoline pour justement éviter d'avoir des chocs. Après, des bons gants, hein, aussi, hein. Les bons gants, on l'a oublié, hein. Les gants, c'est très important, hein.
Ah ouais, c'est vrai?
Ouais, ouais, parce que le gant va permettre d'amortir beaucoup au niveau des frictions. Alors, on a tous envie de rouler main nue et c'est la nouvelle génération avant, hein. L'ancienne génération voulait rouler sans casque, nous on veut rouler sans gants. C'est peut-être, Mathieu Van Der Poel roule sans gants, voilà, on essaye de copier un peu ces coureurs-là. Mais il ne faut pas oublier que quand on tombe, il y avait cette célèbre pub où on tombait et on voyait une main tomber sur le sol et le goudron. Il ne faut pas oublier que ouais, le gant protège, il amortit les chocs. Et sur des ultras, moi je mets des gants, autant je m'entraîne sans gants, attention, pas bien. Mais sur les ultra-distances, les vibrations, ma main, ma paume de main, voilà, ce qu'on appelle l'imlansténar côté pouce et hypoténar de l'autre côté, elles amortissent tellement de chocs, ça fait mal. Et justement, le gant, moi, je le conseille sur les longues distances.
Alors, tu vois, ça me fait penser, là, tu parlais de la main, etc., des chocs et tout. La position idéale des bras, il ne faut pas qu'ils soient tendus, il faut qu'ils soient un peu pliés.
Ouais, légèrement fléchis, tout à fait. Notre position des bras, on ne doit pas être tendu et repoussé vers le haut. Sinon, ça veut dire que le cintre, soit il est trop loin, soit il est trop proche. Trop proche parce qu'on se sent trop près, donc on pousse fort et on garde les coudes tendus pour s'éloigner du cintre. Soit ben, il est trop loin et on court après lui, on va dire, et on a du mal à s'y accrocher. Voilà, les coudes doivent rester fléchis. C'est un des premiers amortisseurs pour nos cervicales, pour notre dos.
Ouais. Et c'est là où ça devient un peu compliqué parce que des fois, ce que je te disais tout à l'heure, c'est que suivant comment je suis sur le vélo, ben, y a des moments en fait, où je sens que mes mains sont plus ou moins... sur l'avant et tout, donc plus ou moins tendu. Et c'est là où je me dis, tu vois, j'ai peut-être un réglage à revoir un petit peu parce que finalement, la position sur laquelle je suis plus confortable, justement par rapport à cette histoire de bras, et je suis un peu loin des freins quand même. Alors, sur le plat, c'est pas super gênant parce que ça va vite de changer, mais dès qu'on arrive dans certains terrains où c'est un peu plus compliqué, etc., ça devient plus sensible.
Ouais, tout à fait. Ben, c'est là où justement, il faut varier les positions. Quand moi, je fais mon fitting, je demande toujours aux gens: comment vous mettez les mains habituellement? Il me dit, moi, je suis tout le temps dans les drops parce que je suis confortable. Quand je le mets au-dessus, j'ai l'impression d'être trop redressé, j'ai mal au dos. Ah, ok. Bon, certainement, son guidon est trop haut. Première info. Ensuite, il me dit, j'aime bien aller chercher les poignées de frein, ça va. Des fois, allez, je change un petit peu. Celui qui a de petites mains, il me dit, j'ai du mal à freiner et en descente, j'ai peur. Ah, ok. Peut-être le guidon est trop bas, les poignées de frein, il va falloir resserrer un petit peu, justement, la poignée de frein pour qu'ils puissent freiner plus facilement. Voilà, c'est toutes ces informations-là qui doivent vous remettre en question en vous disant « Ah, en fait, je suis pas du tout bien installé sur mon vélo ou j'ai encore des optimisations à apporter.
J'imagine qu'on peut… Les optimisations, en plus, c'est en continu parce qu'au fur et à mesure que l'entraînement augmente, on change de position, on s'adapte, etc.
Complètement. Quand j'ai fait mon Bikeman l'année dernière où j'avais pas fait beaucoup de kilomètres, donc j'ai remonté ma selle parce que j'avais mal au genou. Et j'ai fini le Bikeman, j'étais bien, j'avais pas mal au dos. J'ai roulé l'été avec, parce que c'était début de l'été, j'ai roulé l'été avec et j'ai jamais eu mal au dos. J'ai repris mon vélo un peu sur l'hiver, je me suis installé dessus, je dis « Oh, j'ai super mal au dos, qu'est-ce qui se passe ?» C'est mon même vélo. Et en fait, j'avais laissé un scotch. Je laisse toujours un scotch parce que quand je pars en itinérance, j'ai peur que ma selle bouge et je veux toujours avoir un petit feedback dessus. Et donc, pas très beau, mais au moins, j'ai ce retour-là. Et donc, quand je suis revenu, j'ai dit, mais c'est vrai, tu avais monté ta selle, tu pensais que tu serais plus confortable. Et en fait, tu n'as pas roulé de 2 mois, peut-être, sur l'hiver. J'ai voulu faire la saison cross d'hiver en course à pied. Et en fait, quand je t'ai remonté dessus, tu étais désadapté. Tu t'es peut-être un peu enraidi sur la course à pied. Et donc, j'ai remis ma selle comme avant. Et là, j'ai retrouvé déjà un peu plus de confort. Donc oui, la modification du vélo, elle se fait, elle est perpétuelle en fonction de je roule plus ou moins, quoi, en fait.
Alors là, tu viens de me dire un truc, tu viens de m'allumer une lumière. Je me suis enraidi avec la course à pied. Moi qui cours tous les jours, ça fait 600 jours que je cours, 613 même maintenant. Et j'en ai parlé l'autre jour à Cadeline en disant, mais j'ai l'impression qu'il y a deux trucs en fait un petit peu sur l'histoire de... Autant on doit être plus raide sur la course, notamment alors, quand tu fais du trail et tout, sur certains appuis, autant j'ai l'impression qu'il faut être plus souple sur le vélo. Et que parfois, je dis pas que c'est antinomique, mais qu'il y a un juste milieu à trouver en fait.
Oui, il y a un juste milieu à trouver. Après, justement, en étant kiné, moi, j'ai été averti, j'ai toujours eu un petit peu des douleurs de dos et quand j'adore faire de la thérapie manuelle, manipuler, tout ça. Et des fois, j'avais des douleurs au dos et en fait, je me suis rendu compte que j'étais pas souple. J'étais un bon footeux avant les années 2018, avant que j'arrête le foot. Et je touchais pas le sol, j'avais des hanches pourries. Quand j'ai commencé à travailler là-dessus, j'ai d'énormes courbatures d'adaptation et je me suis rendu compte que ça faisait du bien, quoi. J'avais moins mal, j'avais moins de douleurs chronique. Et sur mon vélo, j'étais mieux. Dans ma course à pied, j'étais mieux. Donc, carrément, il faut entretenir. Tout ce que le corps n'utilise pas, eh ben, justement, il le perd. Et donc, si je n'entretiens pas mes hanches, si je n'entretiens pas mon dos, sur mon vélo, je ne serai pas confortable aussi. Donc, des fois, je me dis, ah, j'ai pas eu le temps d'entraîner, je suis déçu. Bah, prenez un tapis et tirez-vous un petit peu et vous serez encore plus confortable sur votre vélo.
Tout à l'heure, j'ai vu un compte Instagram justement où il parlait de ça. C'était drôle parce qu'il parlait justement de son programme étirement en disant qu'il avait mal au dos et qu'en fait, plus il roulait, plus il sentait le besoin de faire des étirements, etc. Donc, tu confirmes. Et une question que je me posais aussi, c'était sur le besoin de faire du renforcement musculaire parce qu'on en parle beaucoup en course à pied en disant qu'il faut faire du renfo. J'imagine aussi qu'en vélo aussi, ça sert à quelque chose.
Complètement, parce que justement, ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure sur l'étude posturale. Moi, sur l'étude posturale, je la vois de la manière kinée. Donc, je fais mon bilan en dehors du vélo, je vois un petit peu les capacités de chacun, et après, j'évalue donc les forces, la souplesse, et après, justement, je dis, ben, si vous voulez être confortable sur ce vélo, vous avez envie de rouler sur un vélo de chrono, mais vous n'êtes pas capable de toucher le sol, et quand je vous demande de lever les bras, ils passent pas les oreilles. Donc, ça va pas. Vous voyez bien qu'il y a des choses qui fonctionnent pas, donc il va falloir travailler dans le sens. Si vous voulez prendre du plaisir, du confort, il va falloir travailler là-dessus. Donc oui, le renfo, la souplesse, c'est quand même des choses intéressantes. C'est dommage parce que on a envie de pas s'entraîner là-dessus. On veut surtout passer du temps sur le vélo. C'est vrai, c'est juste si on veut progresser, mais il faut pas oublier le à côté. Et c'est hyper important aussi.
Il y a vraiment des gens qui n'arrivent pas à monter les bras au-dessus des épaules là.
Ouais. Il y en a. Ouais, tout à fait. Je sais pas s'il m'écoutera, mais justement, oui, il pensera à lui quand il n'arrive pas à lever les bras au-dessus. Et justement, il faisait du crossfit et il avait du mal à se balancer, à faire des mouvements de keeping et ça le gênait beaucoup. Et il avait des douleurs justement parce qu'il n'avait pas développé ses capacités-là.
Ouais. Ouais, alors j'imagine, en crossfit, je vois même pas comment c'est possible de faire certains mouvements de crossfit et tout. Et je fais un petit clin d'œil à ceux qui font du crossfit, qui font du gravel, parce que j'en ai dans les auditeurs. Et notamment Thibaut, côté de Belgique. Hop, coucou Thibaut. Puis en plus, il faut que je le félicite parce qu'il a perdu du poids, il s'est mis au sport, il court, etc. Mais je pense qu'il arrive à mettre les bras au-dessus de la tête. Mais c'est vrai que non, mais après, tu sais, moi je me trouve pas souple, mais quand tu me dis ça, en fait, je me dis ouais, si, je suis quand même assez souple. Et je me suis rendu compte que moi, tu sais, je suis à team foot, j'ai fait 10 ans de foot, hein. Après j'ai joué au tennis, j'ai fait du basket, je cours, et un jour ma kiné m'a dit mais vous avez fait tous les sports qui raidissent, qui raccourcissent tout, c'est normal que vous n'arrivez pas à toucher vos pieds.
Ah oui, bah en fait justement dans tous les sports que tu as cités, il y a des sports que je retrouve un petit peu au cabinet où il y a des asymétries et le vélo en fait partie aussi parce que justement le vélo et on reste toujours dans la même façon de pédaler en fait, on n'explore pas toute l'amplitude de la hanche, on n'a pas d'ouverture latérale par exemple sur les hanches, sur le vélo on a tendance aussi à s'enrouler vers l'avant mais on travaille peu les rotations, c'est souvent le cas, je peux qu'encourager les gens à rouler, à des fois s'entraîner à lâcher un guidon d'une main, reprendre le guidon avec l'autre main et s'entraîner justement à lâcher ce guidon et à s'entraîner à regarder derrière soi. C'est quand même assez hyper important justement d'un point de vue sécuritaire. J'entends une voiture, mais j'aimerais bien voir où est-ce qu'elle va parce que je suis pas rassuré, pouvoir regarder d'un côté et de l'autre. Donc oui, le vélo fait partie aussi un peu de ces sports-là où on aurait tendance un peu à enraidir la hanche, avoir toujours le dos dans la même position et pas forcément travailler tous ces mouvements latéraux.
C'est drôle parce que enfin quand on pense comme ça au vélo on se dit c'est quand même un sport porté parce que, et tous ceux qui courent on dit tu vas te faire mal au genou, tu vas te faire mal à ça, fais du vélo, c'est du sport porté, c'est moi. Mais en fait en vélo aussi il y a des blessures, il y a des trucs comme ça.
Complètement. Une selle trop haute peut entraîner une cheville qui est en hyper extension, donc on va avoir mal au tendon d'Achille, on va avoir des fourmillements. Moi ça m'est arrivé mon premier biking man, je suis rentré, j'avais plus de sensibilité aux gros orteils par exemple. Alors là, on va dans l'extrême hein. Mais ouais, en fait avec ma semelle en chaussure carbone, mon mauvais réglage de vélo, ben je me suis retrouvé, ouais, j'ai bien dû mettre 3-4 mois à retrouver la sensibilité de mon gros orteil. Donc moi qui courais à côté, j'étais bien embêté quand je suis revenu. Donc bien sûr, ça c'est une première blessure, mais il y a beaucoup de blessures au genou avec des selles trop avancées ou trop reculées ou trop basses. Il faut bien comprendre que le genou c'est un des premiers organes à subir justement ces contraintes. Sans parler du dos, c'est souvent le bas du dos, on commence à avoir ces raideurs, ou tu l'as dit tout à l'heure, entre les omoplates et après cervicales, les poignets aussi. Moi, une autre anecdote, enfin, faites attention quand vous faites du home trainer. Des fois, on a tendance à avoir le home trainer qui pique un peu du nez parce qu'on n'a pas mis la cale sous la roue. Et ben, je me suis retrouvé durant le confinement, j'ai acheté un home trainer d'occasion, il ne m'avait pas donné la cale, le vélo penché vers l'avant et je me suis retrouvé en hyper-extension de poignet. Bah forcément mon nerf, mes trois derniers doigts, j'avais des troubles au niveau de la sensibilité quoi. Et je me suis dit, mais mince, je comprenais pas trop pourquoi, un peu novice, du home trainer, confinement, je veux m'amuser. J'ai roulé un peu tous les jours dans cette position-là, jusqu'au jour où j'ai dit, mais non, mais en fait, ça va pas. Tout ton poids va vers l'avant.
Et ça donne envie de faire du vélo avec toi, parce que tu reviens du bikeman, t'as plus de sensibilité dans le pied, tu fais d'home trainer, t'as plus les doigts. C'est cool, non mais il faut le dire quand même.
Au moins, tu l'as réglé. Passé, ça. Quoi. C'est pour ça. Non, bah bien sûr. Et justement, suite à ça, c'est ce qui aussi a fait que j'ai voulu me tourner dedans, parce que j'étais mal orienté. Moi, le vendeur de celui qui m'a vendu l'home trainer, il m'a jamais dit, tiens, fais attention sur tes réglages, il n'y a jamais pensé en fait. Et justement, quand j'ai fait un biking man, je m'attendais pas à avoir les orteils, je m'attendais à avoir mal aux fesses, par exemple, je m'attendais à avoir plein d'autres soucis, mais pas à ça, en fait. Et en fait, oui, la position, en fait, on se rend compte, là, aujourd'hui, elle est primordiale dans le vélo si on prend du plaisir et du confort sur des courtes ou des longues distances, et peu importe le niveau.
Je crois que c'est Adeline qui me l'a dit, mais il n'y a pas qu'elle, qui m'a dit, de toute façon, si tu trouves la bonne posture sur le vélo, après, une fois que c'est fait, tu peux rouler mais des heures et tout, sans douleur, sans fatigue supplémentaire, etc. C'est ça, en fait, l'idée.
Ouais, ça, c'est juste, moi, j'ai un vélo de chrono, j'aime bien le triathlon et je vais en faire. Et sur mon vélo de chrono, c'est une contrainte quand même qui est assez importante et qui est assez exigeante. Je roulais, je me disais, bah, tiens, c'est en train de s'adapter. Plus je roulais, plus je me sentais bien. Mais en fait, le jour où j'ai fait ma formation et ils m'ont fait l'étude posturale sur mon vélo de chrono. Et je me suis retrouvé à pas en faire d'un petit, enfin, rouler juste après la formation parce que j'étais content et pas en faire après un moment. Et en fait, quand je suis repassé dessus, j'ai dit, ah ouais, mais en fait, on est confortable sur ce vélo-là, mais sans forcément s'entraîner. Donc ouais, le vélo, on doit être confortable dessus. On peut rouler des heures après.
Tiens, alors tant que tu parles de ça, j'avais une question sur les prolongateurs. Tu sais, pour ceux qui savent pas, comme les trucs de triathlon là. Mais tout ça, ça modifie sacrément la posture et puis la respiration, la position et tout. C'est
complètement, c'est même facile, le rythme cardiaque. Ouais. Et même le rythme cardiaque, quand on sera penché vers l'avant, le rythme cardiaque sera plus bas que quand on est redressé. En fait, oui, ça modifie énormément la position. Souvent, on se retrouve avec des barres fixées sur le vélo. Attention au beau coefficient de réglage. Toutes les barres ne vont pas sur tous les cintres. Faites attention à ça. C'est un organe de sécurité et ça, je vous en garde. Et après, ouais, sur le bon réglage. Alors, maintenant, on les voit, les pros, ils ont des coques complètement moulées autour des coudes. Nous, c'est un appui souvent qui va arriver soit au tiers du coude ou soit carrément sur le coude. Moi, je trouve plus de confort sur le coude. Et c'est vraiment de retrouver un confort avec les barres plus ou moins serrées. Voilà, et on peut tirer sur ce guidon pour pouvoir pratiquer la plus longue distance. Mais en effet, ça modifie un peu la position parce que si vous avez une selle qui est évidée mais qui remonte un petit peu, ça va vous écraser les parties molles, le périnée, vous n'allez pas être confortable. Donc, c'est pas un choix qui se prend à la légère comme j'ai pu voir sur certains bikingman où les gens, la veille, se disaient, tiens, je vais mettre des prolongateurs, des barres et je serai confortable.
Ça sert à quelque chose. En fait, sur la longue distance, ça sert à quoi finalement de mettre les prolongateurs?
Sur la longue distance, ça va reposer énormément parce qu'on va pas avoir les mains sur les cocottes, on va lâcher l'appui des mains, donc on va être quand même beaucoup plus confortable, on va avoir un appui un peu plus sur les coudes, donc on change complètement la façon, et puis on gagne aussi un peu en puissance parce qu'on réavance un peu le tronc et on pousse vers l'arrière en pédalant, on va gagner en puissance. Donc ça permet de changer de position et d'avoir encore une autre position de confort sur le vélo.
La position d'avoir le plus de puissance, donc c'est celle avec les prolongateurs, et après c'est quoi? C'est quand on a les mains en bas, ou c'est quoi?
Tu me poses une colle, je pense. Je pense que c'est les mains dans les drops, certainement. Moi, j'aime beaucoup la position avec les mains enroulées autour des cocottes. Je trouve que je suis assez puissant et j'arrive à tirer sur le guidon. Mais dans les drops, souvent, on sera à la position intermédiaire. On a le plus de puissance, on peut tirer sur le guidon. Parce qu'on se rend pas compte, et quand on va sprinter, on tire énormément sur le guidon. Notamment, d'ailleurs, dans un des tests d'étude posturale, on peut faire des pompes, on peut faire du gainage. On sous-estime l'influence des bras, mais les bras subissent beaucoup de chocs et on doit être fort, on doit savoir tirer sur un guidon.
Ah bon? Pourquoi?
Ouais, et bien en fait, on se rend pas compte, mais quand on va sprinter, on va tirer sur notre guidon, justement, on tire pour avoir plus de puissance en montée. Quand on a un petit peu oxy, on va avoir tendance à tirer un peu sur le guidon et à mettre un peu de puissance. Donc oui, la force des bras, elle est sous-estimée, mais elle est hyper importante. Et puis, dernière remarque, c'est quand on descend des grands cols, si les triceps ou si les bras sont pas, entre guillemets, préparés à l'effort, quand... des grands cols alpes qui vont faire 15-20 km pour les plus longs, et ben par exemple la bonnette, si vous n'êtes pas prêt à descendre avec un appui sur les bras vers l'avant et à bien savoir virer, vous allez vous crisper, vous allez vite avoir mal aux mains et aux bras, et la descente va vous paraître très très longue, voire plus longue que la montée des freins.
Ouais, et pourtant la montée doit être sacrément longue.
Je rêve, carrément.
Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est drôle parce que quand tu regardes les coureurs de Tour de France qui descendent à une vitesse folle dans les déchantes, les virages, etc. Et puis toi, tu te retrouves en haut d'une petite descente et tu te dis, putain, ça va vite quand même. Ça descend vite, hein, le vélo. Hein. Ça paraît pas. L'autre jour, j'ai fait Gergovie, tu vois. Et Gergovie, la descente, quand ça commence à se lancer, que t'as le premier virage en épingle à cheveux, tu te dis, voilà, attends. Et mon gars,
complètement. Elle est assez technique. Hein. Elle est assez technique parce qu'il y a du 10%, je crois, même un peu plus en descendant. Et puis, ouais, il y a des virages quand on passe dans le village, il faut faire vraiment attention. Ouais, complètement. Bah, après. C'est des artistes, hein, les pros qui descendent. On se rappelle de la descente de Pidcock du Galibier. C'est exceptionnel, hein, ce qu'ils font. Ils sont sur route ouverte. Ils ont cette capacité à descendre qui est superbe. Enfin, c'est des artistes, c'est beau à voir.
Ouais, c'est des vrais artistes, hein, comme en plus comme ils se récupèrent et tout. Là, c'est vraiment des magnifiques à voir. On va dire un mot sur les études posturales quand même, parce que c'est à quel moment tu te dis l'étude posturale devient. Alors, je sais pas si c'est une obligation. Mais en tout cas, à quel moment ça devient intéressant ?
Ouais, je pense que ça devient intéressant quand on parlait de prix de vélo. Celui qui est prêt à mettre un petit billet dans son vélo et qui cherche du confort, là, c'est intéressant. Très clairement, ou c'est celui qui a des blessures à répétition et qui n'arrive pas à avancer. Mmh. Alors attention, il y a toutes les études posturales. Moi, je conseille une étude posturale assez complète. Moi, j'interviens en tant que kiné, donc je vais avoir une vision un peu holistique aussi de la personne. Quand on commence à avoir des blessures un petit peu à droite, à gauche, de répétition ou des inconforts à la selle à répétition malgré un ou deux changements, là, je conseille réellement d'aller consulter, de voir quelqu'un, de se faire entourer par un professionnel. Moi, je déconseille ces études un peu rapides et toutes faites de la part de certains vélocistes qui sont à bas coût où on vous dit ben, « je vous vends le vélo et je vous offre l'étude posturale ». Elles sont rarement poussées jusqu'au bout. Des fois, peut-être même avisées de vendre un peu du matériel. Et j'ai eu pas mal de personnes déçues d'avoir payé des études pas très chères, mais pas forcément en fait en fonction de ce qu'ils attendaient. Moi, je vous conseille, c'est de vous entourer, avoir confiance envers la personne, lui poser peut-être 2-3 questions, quitte à le déranger un petit peu, mais voir s'il est prêt à vous répondre et s'il est prêt à vous accompagner dans l'idée de choisir le bon vélo, en tout cas la bonne posture sur votre vélo.
Bon, ce qui est pas mal, je me dis, avec quelqu'un qui vend pas de vélo, c'est que s'il donne un conseil sur un truc, c'est qu'il a pas à te vendre le vélo qui va avec, ou la pièce, ou la selle.
Complètement.
Ou je sais pas quoi.
Mais moi, justement, on m'a dit, quand j'ai fait ma formation physio-vélo, ils m'ont dit, mais Thomas, tu vas pas être dérangé de travailler avec un vélociste et tout ça. Et c'est ça que j'aime beaucoup, en fait, avec l'approche avec Julien à Tempo, c'est que lui, il vend ses vélos. Mais il trouve aussi du plaisir à ce que je vienne et que je propose mon savoir autour de tout ça. Et moi, justement, toucher un vélo, des fois, je vais dire à Julien, j'ai un doute sur le coefficient de fixation du vélo au niveau du couple de serrage. Est-ce que tu peux m'aiguiller ? Est-ce que tu peux m'aider ? Et c'est là où il intervient et toute son expérience est hyper importante, en fait. Ou tiens, Julien, tiens, il y a tel recul de selle, je peux pas trop l'optimiser. Est-ce que tu as la tige de selle pour m'aider ? C'est bien, hein, il faut du matériel et c'est hyper onéreux. Et moi, je peux pas avoir tout ça moi-même. Donc c'est là où on trouve justement, je me suis entouré de quelqu'un qui pouvait m'aider et moi je lui apporte justement mon expérience autour de tout ça et c'est là où on est assez complémentaire.
Il y a un truc dont on n'a pas parlé, alors il y a un truc d'ailleurs, ça coûte combien l'étude posturale ?
Là actuellement, avec Julien, on est autour de 250€ l'étude posturale. Je pense que je serais curieux de savoir chez les autres vélocistes, mais on avait regardé justement en moyenne, on était dans ces factures-là entre 200 et 250€. Il y a même un peu plus cher chez d'autres revendeurs, mais je pense que ça me paraît vraiment onéreux. Après, c'est dur de parler d'un tarif juste. Pour moi, c'est le tarif pour moi qui est juste parce que je passe 2 heures avec mes clients. Et après, j'ai au moins 2 heures d'analyse minimum posturale, le temps de tout retranscrire. Parce qu'après, moi, sur mon étude posturale, je fais un bilan kiné et je fais l'analyse sur le vélo. Et après, je leur redonne des exercices en fonction de leurs points forts et leurs points faibles, en fait. Donc, la personne, elle rentre chez elle. Je vais me filmer et il va avoir des petites vidéos, souvent de 1 à 5 vidéos, en moyenne c'est 3 à 5, et il va avoir des exercices correctifs. Par exemple, celui qui a du mal à s'enrouler sur le vélo, je vais lui proposer des exercices d'autograndissement, de rotation sur son vélo, des choses simples, mais qui lui permettra justement d'être plus confortable sur son vélo. Souvent, ils sont importants ces exercices-là parce que il y a des gens, des fois, qui vont me dire j'ai une hernie discale et puis ils n'arrivent pas à faire de rondo creux. Je peux leur changer la selle, faire le réglage que je peux au mieux et être le plus gentil possible. Mais non, il faut qu'ils travaillent leur dos, quoi.
Arrête, on dirait que tu parles de moi. Non, parce que pour l'anecdote, non, mais tu le sais pas, mais ça fait 1 an que je me trimballe avec. Au début, on m'avait dit un tassement lombaire. Et puis l'été dernier, on a vu une hernie discale qui m'a bien embêté quand même pendant 1 an. Mm-hmm. Mais alors, Tiens, je touche tout le bois de mon bureau là, que j'ai devant moi. Là. Ça fait quand même 3 mois et demi qu'il ne m'a pas embêté. Bon, après, il faut dire que je fais des efforts. Hein. Je cours, je roule, j'ai un bureau assis debout, je marche, je fais le dos rond, dos creux. Alors, il y a des jours, ça passe moins bien que d'autres, mais plus je le fais tous les jours, et plus ça passe facilement. Et ça, c'est quand même une bonne leçon à retenir.
Ouais,
la mobilité, qu'est-ce que je fais? Oui, c'est le cobra, c'est les trucs en yoga aussi, les positions un petit
peu. Ouais, je suis un peu en bas, salutations au soleil. Ouais, c'est un petit peu ma routine que je propose justement aux personnes quand ils sortent de là. C'est des exercices simples mais faciles à mettre en place et que j'aimerais vraiment que ça soit répandu. Je pense qu'il y a trop de gens qui s'en raidissent et puis souvent c'est des changements de carrière ou des envies d'ailleurs. Le Covid a donné ça. Les gens vont sauter sur leur vélo et le gravel est un vélo nature et les gens adorent ça. Mais on va trop vite sauter sur le vélo et en fait ils vont découvrir une passion, ils vont rouler, le corps aura du mal à s'adapter et en fait non, il faut aider le moteur à s'adapter. Et ce que tu disais, tout ça c'est important.
Et c'est drôle parce qu'en fait, tu sais, moi je dis que le gravel c'est le nouveau trail vraiment l'esprit, tu sais, tout, tu te dis, mais en fait on retrouve les mêmes travers, c'est-à-dire tu dis bah, allez, je vais rouler sans faire attention aux autres trucs, etc. Ça paraît moins exigeant parce qu'en trail, tu sais, on marche, il y a des moments où tu marches, etc. C'est moins exigeant que la course sur route, alors qu'en fait quand tu fais 50 bornes dans ta journée, tu peux pas dire que ce soit pas exigeant. Et où ces histoires de posture, de renforcement, de douleur, etc., tu les as en trail. Et donc, je retrouve vraiment le truc dans le gravel aussi, un petit peu ce truc-là. Et tu sais, dans le trail, il y a des yogi runners. J'ai failli faire leur formation. Enfin, un jour, je vais finir par la faire, tu sais, où ils mélangent yoga, running, etc. Justement, pour trouver les bonnes positions. Et je me dis aussi, tu vois, et plus je parle avec des cyclistes, et plus je me rends compte, en fait, de ces notions de souplesse, de mobilité, d'avoir tous ces mouvements-là. C'est l'importance des mouvements, à quel point on le néglige. Alors c'est vrai, ceux qui sont assis dans une chaise de bureau toute la journée, si tu leur dis bah, au lieu d'aller rouler, tu vas aller faire ton renforcement ou je sais pas quoi, c'est pas très glamour quoi.
Oui, mais c'est là où je vais mettre un peu d'eau à mon moulin. Moi je le propose sous format 10-15 minutes grand max.
Ouais.
Voilà. Pour moi, vaut mieux, et là je m'inspire encore des Québécois, je m'inspire, tout à l'heure j'ai fait un lapsus sur la ligne du coureur, il vaut mieux faire un petit peu tous les jours que trop d'un coup. Ouais. Et vaut mieux tous les jours se lever peut-être 10 minutes plus tôt et prendre le temps de s'étirer, faire sa mobilité, qu'un jour dire « punaise, j'ai mal au dos, faut que je le fasse ». Ouais, mais là, mon coco, t'arrives plus à faire de rondos creux tellement que t'as attendu et ça fait un mois que t'aurais dû les faire, tes exercices. Donc, si justement, il y a cette démarche de dire « je veux un esprit libre, liberté, vélo et me faire plaisir », ben, d'un autre côté, il faut entretenir justement son corps. Si on se dit « ben, j'aimerais bien aller rouler mes 2h30, mais j'ai un peu mal au bas du dos », bah, profite toutes les semaines, fais 5 minutes de dos rondo creux tous les 2-3 jours, étire-toi un petit peu avec tes postures de yoga. Prends le temps, on trouve du temps à regarder des séries, à manger, à faire ci et ça. Bah, prends le temps juste de faire ça. Ça devrait être une routine. Et une fois que ce sera installé comme une routine, bah, ça passera plus facilement. Mais tu prêches un convaincu. Au-delà de 20-30 minutes, non, on va en avoir marre. Moi, le premier, je suis un gros récréatif. Moi, s'il n'y a pas de carotte, s'il n'y a pas du jeu, je m'amuse pas. Donc, il faut vraiment t'allouer un petit temps court.
T'es comme Adeline, les gens qui font pas les exercices en kiné, là, tu leur dis de repartir chez eux de faire les exercices ou...
Alors, ça y est, là, je vais balancer un truc, je suis moins la dictature qu'Adeline. Ouais, c'est vrai que j'ai plus tendance à peut-être leur trouver un peu d'excuses, mais c'est vrai que des fois, j'ai envie de leur dire si moi j'ai le temps, vous pouvez trouver le temps. J'avais un stagiaire qui cette semaine, il m'a dit mais Thomas, t'arrives comment, tu gères ça, tu fais ci, ce soir t'as ça, tu vas courir, comment tu fais? J'ai dit mais c'est juste une organisation. Et encore par rapport à Lynn, je loupe beaucoup plus de choses, mais je pense qu'on peut tous se trouver 5 à 10 minutes par jour clairement pour pouvoir aller mieux dans son quotidien. Et c'est tellement gratifiant après quand on saute sur son vélo et on n'a pas de douleur quoi.
Alors tu vois, c'est intéressant parce que tu as parlé de la clinique du coureur. Alors moi, clinique du coureur, j'en suis fan parce qu'en courant, et moi, ils m'ont sauvé ma manière de courir, hein. Franchement, je le dis, parce que Thomas Laure Blanchet, qui était vraiment formé clinique du coureur, quand il m'a fait mon analyse de course, il m'a dit il faut partir sur telle chaussure, tel coureur, voici ton problème, etc. Ça m'a vraiment changé. Alors je sais pas si on peut pas dire que c'est l'étude posturale de course à pied, mais bon, bref, en tout cas,
ouais, on peut faire un parallèle.
En tout cas, il m'a dit un truc qui était super intéressant parce qu'il m'a permis de comprendre comment mes jambes fonctionnaient, comment mes pieds fonctionnaient, tu vois, la bascule des pieds qui tournait vers l'extérieur parce que mes semelles étaient trop épaisses, tu vois, un changement qui paraît infime, mais qui au final m'a changé ma vie, hein. Faut le dire. Et c'est vrai qu'il y a aussi, tu vois, et moi c'est un parallèle que je fais parce que comme je viens de la course, moi je suis de la team, tu sais, je préfère courir 4 à 5 fois. Alors, je cours tous les jours maintenant, donc ça ne marche plus. Je dis toujours aux gens que j'accompagne, je dis courir 4 fois par semaine 20 minutes, plutôt 1h20, tu vois, de faire une grosse séance le week-end où tu seras épuisé.
Complètement.
Et en vélo, c'est pareil ?
Mais en vélo, c'est pareil. Vaut mieux s'allouer une sortie d'1h, 1h30, 2-3 fois dans la semaine que se faire sa sortie de 3h juste le week-end. Parce que celui qui a un petit peu mal au dos au bout d'1h30, 3h, il n'aura peut-être pas eu le temps de s'adapter et vaut mieux mettre de l'adaptation souvent, remettre une bûche pour entretenir le feu que de l'allumer un grand coup et attendre qu'il crève. C'est vraiment important. Et donc oui, il vaut mieux rouler 1 heure, 2-3 fois dans la semaine que 3 heures pardon, le week-end parce que justement le corps n'aura pas le temps de s'adapter à ce qu'on nous on lui demande. En tout cas, le gap sera trop important et la personne va se blesser.
Il y a un truc dont on a oublié de parler, on va dire un dernier mot là-dessus, c'est quand même sur les comment ça s'appelle, j'ai perdu le nom, les tu sais avec les pignons là.
Ah, les pignons fixes, les développements.
Bon, voilà. Je suis en train de regarder l'heure et pour l'anecdote, il est 22h30. Tu vois, moi je suis levé depuis 5h du matin, donc j'ai plus les yeux qui se non mais j'ai roulé, attends, j'ai fait 1h30 de vélo et j'ai couru 8 bornes aujourd'hui, tu vois. Donc j'ai eu ma petite journée, j'ai fait 3 épisodes de podcast. Donc j'ai en train d'avoir un peu les yeux. Donc le développement, l'impact du développement sur la posture, tu vois, sur
il y a une influence. Non, il y a une influence. On a fait un petit parallèle tout à l'heure avec l'hypervélocité, par exemple. Celui qui va beaucoup monter en cadence, comme Adeline, qui va avoir facile les 90 tours en ascension, qui va donc avoir tendance peut-être à rebondir sur son vélo plus facilement, et celui qui va être tout monté en puissance, comme moi au début. Et je pense, quand on monte en puissance, on a tendance à être calé sur le vélo, donc à avoir moins de troubles et moins de douleurs au dos. Le souci, c'est que en ayant moins de cadence, on va avoir plus de risques d'avoir mal aux genoux. Donc il faut travailler cette cadence. Il faut apprendre au corps à monter sur des ascensions longues à 70-75 tours par minute, comme il faut apprendre aussi à son corps à rouler en hypervélocité entre 100 et 110 tours. Là, on parle de la période un petit peu d'entraînement. Ouais, c'est assez dur, c'est assez conséquent.
110 tours.
Mais juste, ouais, 100, 110. Ouais, là, ça tourne. Hein. Là, carrément, ça fait de l'air. Mais déjà, aller chercher 100 tours par minute.
C'est vous qui faites tout le vent qui est en Auvergne, là. C'est vous qui pédalez, là. Vous
êtes horrible, on ne peut plus rouler, c'est insupportable. Ouais. Mais justement, de travailler ces cadences, c'est hyper important. Et justement, le développement va jouer. Demain, ça peut éclairer un petit peu. Monter les Alpes en 34-34. 34 à l'avant, 34 à l'arrière. Donc, je fais un petit rappel rapide. Plus j'ai dedans à l'avant, plus c'est dur. Mais plus j'en ai à l'arrière, plus c'est simple. Monter en 34 dans les Alpes à l'avant, 34 à l'arrière, c'est un bon compromis, très clairement. Je dirais que 30-32, c'est un minimum à l'arrière. Voilà, pour la petite info. Et pour les gens qui sont plus dans le nord de la France avec des talus, des routes un peu plus rigides, ils peuvent rouler en 25 ou en 28 sans problème à l'arrière.
D'accord. Franchement, on pourrait dire quelqu'un, tu vois, qui peut avoir une cadence un peu faible. Alors, je sais pas comment ce serait une cadence un peu faible et tout finalement.
Une cadence un peu faible, ce serait d'aller chercher autour de 65-70 tours par minute. Là, on commence déjà à avoir une cadence un peu faible. Regardez les anciens, amusez-vous et vous verrez les anciens, ça c'est une cadence faible. Ils ont eu cette expérience à rouler avec du gros braquet. J'en ai quelques-uns en son au cabinet. Pour eux, quand je leur dis je suis en 34-34, ils me rigolent au nez. Eux, ils roulent en 34-25 à l'arrière et ils me disent le 25, je le mets quasiment jamais. Donc, ils tournent quasiment pas les jambes. Mais vous voyez, c'est bam, bam, c'est vraiment une cadence très faible. C'est tout en puissance. Mais au niveau de la selle, ça bouge pas parce que la puissance plaque la personne sur la selle. Il y a vraiment une réelle influence là-dessus.
C'est drôle parce que l'autre jour, j'ai suivi deux cyclistes sur une petite route et ils roulaient vraiment pas pareil. C'était drôle. Il y en avait un qui était vraiment en vélocité, ça tournait à toute vitesse. Et puis l'autre à côté qui roulait, alors qui était très lent dans sa cadence et qui se mettait souvent en danseuse, etc. Ils roulaient tous les deux à la même vitesse, hein, ce qui montre que d'ailleurs, on fait pas tous du vélo vraiment de la même manière. C'est vraiment drôle à voir, quoi.
C'est pour ça que les gens étaient un peu surpris de voir un gars comme Christopher Froome attaquer fesse vissée sur sa selle en hyper vélocité et voir d'autres coureurs qui attaquent plutôt en danseuse. C'est vraiment deux façons de faire du vélo différemment et qui ont marqué les gens. Et en fait, y a plutôt l'ancienne génération qui aura tendance à monter en force avec des faibles cadences et des gros développements et d'autres personnes qui ont des plus petits développements et monter un peu plus en vitesse. Après, il y a l'influence aussi. Adeline vient du VTT par exemple et elle aura tendance à monter en moulinette. Moi, j'aime un peu moins le VTT, j'emmène plus de braquets. Et c'est certainement pour ça aussi que j'ai du mal en VTT, parce que dès qu'il y a un obstacle où il faut mettre un peu de cadence et de vélocité, moi j'aurais tendance à vouloir me mettre en danseuse et emmener du braquet, le pneu va peut-être pas adhérer et je vais être pas confortable. Donc il y a ça aussi, cette technique-là de pédalage est importante, peu importe la pratique.
Ouais, mais ça, c'est vrai. Et ça, c'est un truc qu'on sent hein, tout de suite. Hein. Il y a des moments où, des fois, la roue, tu sens que ça patine un petit peu sur le braquet que tu amènes, ou etc. et tout. Et puis, tu vois, sur cette montée un peu raide aussi, où tu as l'impression. Alors, moi, en tout cas, c'est peut-être une erreur. Et peut-être que là, c'est une question de position aussi. C'est que des fois, tu sais, j'ai une tendance à tirer un peu sur le guidon. Et ça soulève même un petit peu, tu vois.
Un peu le vélo. Ouais, tout à fait. Il y avait eu justement Thomas Vauclair quand il a repéré le Puy-Marie. Et il disait, là, on sent qu'il y a vraiment du dénivelé, c'est costaud, et c'est quand il était pour la chance de ceux qui l'ont parcouru. Là où le Tour de France est arrivé, il y a un gros talus à la fin, c'est vraiment dur. Et justement, il tirait sur son vélo et hop, le vélo à peine se levait. C'est pas une erreur de tirer sur son guidon. Au contraire, les coureurs de contre-la-montre ou les pistards ont tendance à tirer très très fort sur leur vélo pour emmener et tirer du braquet. C'est justement là quand on va avoir tendance à vouloir mettre de la force. Donc non, c'est pas une erreur. Au contraire, il faut savoir tirer, d'où le fait d'avoir de la force dans les bras. Non,
D'accord. C'est
non.
drôle. Bon, après, pour l'anecdote, pour ceux qui veulent écouter, j'ai fait un épisode de Sport et Nutrition avec François Pervis, qui a été, combien de fois? Je crois qu'il a plus de 100 médailles internationales sur piste. En Kérine, n'est jamais tombé, qui a battu les Japonais et tout sur leur piste, etc. Et qui expliquait ses séances de musculation. Et là, vous allez comprendre à quel point pour faire de la piste et tout, et effectivement, il tire, mais les braquets qu'il amène et tout, c'est dingue. Et si vous regardez les vidéos, il se met de la misère sur ses trucs, ça, tout tremble. Je mettrai un lien pour ceux qui sont intéressés, parce qu'il expliquait justement les séances de musculation qu'il faisait pour arriver à avoir, mais là, c'est la team grosse cuisse, hein. C'est pas la team. D'ailleurs, un jour, un journal s'est moqué de lui parce qu'il a fait du cyclocross et lui, il tombait toutes les barrières et dit, mais qu'est-ce qu'il foutait là avec ses grosses cuisses,
Ouais.
etc.
Chaque sport justement a ses adaptations. Le VTTiste qui va peut-être monter en hypervélocité, le pistard qui va savoir enchaîner n'importe quelle cadence et qui sera capable de subir n'importe quel gros développement. Parce que c'est vrai que tu parlais du développement au devant, on est sur des cassettes, enfin pas des cassettes, des plateaux énormes. Et ils emmènent du braquet, c'est assez impressionnant. Et pour avoir eu la chance d'aller au Vélodrome à Paris pour faire les études posturales avec les juniors, ils ont une salle de muscu qui est assez impressionnante. Le BMX et la piste, c'est des chocs, c'est l'accélération, de la puissance hyper impressionnant. Ayez l'occasion, allez voir parce que c'est beau.
Ouais, non, c'est vraiment. Et puis c'est là où on voit aussi que ce sont des sports différents. Où, ça ressemble à un vélo, mais c'est pas les mêmes vélos, c'est pas la même puissance. Ils travaillent pas du tout de la même manière. L'entraînement est vraiment totalement différent, etc. À tel point d'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés, François Pervis disait qu'il avait été obligé d'arrêter la route pour justement faire de l'entraînement piste, parce que sinon c'était antinomique entre la besoin de puissance et l'endurance. Il était tombé dans une zone où on lui a dit soit tu fais l'un, soit tu fais l'autre, mais tu peux pas faire les deux pour être bon dans l'un, c'est pas possible. Et d'ailleurs, tu vois, j'ai vu des questions il y a pas longtemps, et c'est intéressant, on finira là-dessus, où tu vois certains, les Van Der Poel et compagnie, qui font du cyclocross, qui font du VTT, qui font de la route, on parlait de Sagan, etc. Ces espèces de polyvalence qu'on voit, etc. Alors, mis à part, bon, il y en a qui viennent de la piste aussi. On peut faire facilement, tu vois, dire je vais faire de la route, je vais faire du VTT, je vais faire du gravel, mixer ça, etc. Et se dire on reste dans le même sport, tu vois, globalement.
Je pense que oui, c'est possible. Je pense que c'est possible. Et d'avoir cette polyvalence-là, c'est quand même une aide pour eux, je pense. Un gars comme on parlait de Pidcock qui est capable de descendre aussi vite, s'il n'avait pas fait du VTT, il ne serait pas aussi bon là-dedans. Je pense qu'il n'aurait pas cette facilité-là à descendre aussi vite. Un gars comme Van Der Poel, il a quand même cette polyvalence qui lui permet d'être bon sur les Flandriennes comme Wout Van Aert. Je pense qu'il y a cette capacité-là. Moi, j'ai un autre exemple chez les juniors. Il y a un coureur qui s'appelle Eddy Lehuitouse, il est capable de faire de la piste, d'emmener. Justement, ils sont en braquet limité. Il est capable d'emmener une cadence à une certaine vélocité grâce à justement son travail sur la piste. Et quand il est en junior avec un braquet limité, c'est ce qui lui a permis d'aller chercher peut-être une médaille de bronze au championnat d'Europe il y a quelques années grâce à ce travail-là. Je pense que c'est dur de dire toi, tu dois faire ça, donc tu devras faire ça. Peut-être l'ancienne école où je m'y connais pas assez, ça c'est intéressant et c'est bien d'avoir ces retours d'expérience. Mais je pense qu'on peut avoir cette polyvalence-là, mais d'un sport à l'autre, non. Des fois, c'est vrai qu'on sera limité par les contraintes physiologiques de chacun. Ouais,
Bon, en plus, bon, les champions, c'est des champions, hein. Ils ont des trucs un peu
ouais,
particuliers.
d'accord.
Là, on n'est pas dans le même monde, hein. On est dans une autre planète. Bon, bah écoute, c'était super
Clairement.
sympa de discuter avec toi. J'ai appris un nombre de
Avec
trucs.
plaisir.
Ouais, ma to-do list, elle est énorme. Ceux qui veulent te contacter, on trouve où?
Eh ben, on peut utiliser justement les réseaux sociaux. J'ai une page sur Instagram, c'est Cycling Posture 63. Voilà, elle sera avec mon nom, Thomas Pied-Noir, ou via Tempo aussi, on peut échanger via son réseau social et on arrivera à échanger assez facilement pour guider au mieux les personnes.
Bon bah écoute, de toute façon, je mets tous les liens dans les notes de l'épisode, comme ça les gens te suivront. À la publication, je rappelle que je tag aussi dans la publication mon compte Instagram, Bertrand Soulier, je tag, donc je te taguerai, tu vois, je te marquerai, comme ça les gens te retrouveront du premier coup,
avec
pour
plaisir.
Ceux qui ne savent pas. Et je mets en note de l'épisode. Et bah écoute, moi maintenant, tu vois, je vais prendre ma petite liste, je vais réécouter tout ça, je vais dire tiens, il faut que je fasse ça, que je fasse ça, je vais aller mesurer mon entrejambe, je vais regarder ma hauteur de selle, je vais regarder comment c'est penché, je vais sortir ma petite, mon petit téléphone pour mettre ça dessus, etc. Bref, j'ai du taf, j'ai vraiment du taf, mais je te remercie beaucoup pour ce temps passé, parce que on a appris un nombre de trucs qui est incroyable, hein. Franchement, n'hésitez pas d'ailleurs à aller mettre des commentaires, des retours, nous faire des retours sur ce que vous avez pensé de cet épisode là je te remercie en tout cas beaucoup pour le temps passé avec moi et avec nous, avec tous ces conseils. C'est là où on voit qu'il y a quand même beaucoup de choses, et c'est bien d'avoir cet œil kiné aussi, cet œil global,
merci, merci.
Qui est vraiment intéressant, parce que on voit que c'est pas juste la mécanique, il y a la mécanique du corps, il y a la mécanique, tous ces trucs-là se mélangent, et que c'est l'harmonie de tout ça qui permet justement de, bah, d'être mieux sur son vélo et de rouler, de pouvoir faire tout ce qu'on veut en vélo. Donc je te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et nous, bah, écoutez, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. On continuera à rouler, je ne sais pas trop. Je ne sais pas d'ailleurs si j'ai un invité la semaine prochaine ou si c'est moi qui vous parlerai un petit peu de où j'en suis sur la préparation de mon Gravelman. Mais si vous posez la question, j'avance. J'avance.
En tout cas, merci beaucoup. C'était super sympa d'échanger. Merci beaucoup.
Eh ben, merci à toi, et je te souhaite, en fait, si, attends, on n'a pas dit, mais Biking Man, etc., c'est ça au programme cette année.
Ouais, le Biking Man Vercors, il y a 500 km. Ensuite, je fais le triathlon de Sapin. Là, ce serait vraiment un gros objectif pour moi. J'aimerais bien performer, refaire le triathlon du Chambon comme l'année dernière, et après le Biking Man avec Adeline qui sera au Maroc. Voilà, ce sera une belle épreuve.
Eh ben écoute, je te souhaite une belle saison en tout cas, bien performé.
Merci
puis on
beaucoup.
Voit, tu vois, triathlon, ultra, cycling et tout, course, enfin, comme quoi on peut tout mêler, etc. Et puis même être kiné en même temps, enfin, c'est un sacré emploi du temps quand même.
Ouais, des belles journées en effet.
Voilà, eh ben écoute, en tout cas, je te remercie beaucoup et puis on se retrouve nous la semaine
Merci
prochaine.
Merci beaucoup.
Ciao, ciao.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.